Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Avec nous autour de la table, pas mal de chroniqueurs. On va parler bien évidemment de football et comment ne pas parler du Paris Saint-Germain et de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. S'il vous plaît messieurs, mesdames, première, deuxième Ligue des Champions en 5 ans. C'est un gros titre ce soir et nous allons analyser tout ce qui s'est passé durant ces demi-finales. De l'autre côté aussi, on a eu un match épique entre l'Inter Milan et FC Barcelone. L'Inter Milan qui se sont qualifiés aussi et qui iront en finale à Munich défier le Paris Saint-Germain. On vous attend, mesdames et messieurs. Quels sont vos pronostics et vos analyses sur ces demi-finales de Ligue des Champions? On va commencer tout d'abord avec la Ligue 1 juste avant. Et ensuite, voilà, il y a Philippe qui vient de nous rejoindre. On va commencer avec la Ligue 1. La Ligue 1, du côté lyonnais, quand je te regarde, Léo, je vois que du côté lyonnais, rien ne va plus. Rien ne va plus et ça fait un petit moment que rien ne va plus. Et je pense que les Lyonnais ont dit adieu définitivement à la Ligue des Champions. Comment ça va, Léo, déjà?
Bah écoute, ça va très bien. Effectivement, Lyon, là, c'est depuis Manchester United, c'est la fin de saison. Ça a signé le glas de la saison lyonnaise, même s'il y avait des chances encore de se qualifier en Ligue des Champions, mais ils n'ont pas réussi à se montrer à la hauteur des attentes. Donc voilà, au bout d'un moment, tous les problèmes t'explosent à la figure à la fin.
Merci Léo. Comment ça va Philippe?
Ça va très bien.
Bonne semaine de football.
Ah oui. Et puis c'est pas fini encore, même si c'est un peu plus calme cette semaine, mais ouais. On va vivre des fins de championnat, comme pratiquement souvent, très passionnant. Quoi.
C'est ça, bon. Exactement.
Malheureusement pour Lyon, c'est plus que la situation sportive qui est inquiétante, c'est peut-être la situation financière quand même. Hein. Il y a des très mauvaises nouvelles qui sont annoncées.
Ouais. Après, la situation sportive va aussi avec...
Oui, on en avait déjà parlé il y a 2-3 ans, hein, des choix sportifs qui étaient faits à l'époque. Ça semblait aller un petit peu mieux quand même, mais malheureusement, le déficit, lui, n'est pas parti. Oui,
c'est ça exactement. Cheikh Kenza, comment ça va?
Je vais bien.
Bonne semaine de football?
Oui, une très belle semaine de football.
Malgré la défaite du Real?
Oui, après, bon, c'était un peu prévisible quand même, hein, vu vraiment les dernières contre-performances du Real Madrid. Donc, on ne s'y attendait pas. Par contre, le football anglais nous a régalé. Aussi en Ligue 1 aussi, avec Marseille vraiment qui a su garder en fait sa place du dauphin et tout ça à l'AS Monaco. Le grand perdant, c'est l'Olympique Lyonnais.
Voilà, et donc, pas que.
Oui, pas, ben, que. Pas que, mais en fait, et puis en plus...
On y arrive, chez Kenza.
Là, chez
Kenza,
il est tabloïd, en fait.
Chez Kenza, il est lancé, là. Il est lancé. Attends, on arrive. Comment ça va, Salson?
Oh, ça va, nickel et toi?
Ah, très bonne semaine de football, je suppose.
Magnifique, ça. Que des bons matchs, Ligue des Champions, Ligue 1, Première Ligue, il y a du suspense. Franchement, la fin de saison, elle est...
C'est vrai
elle
que est... Barça-Inter, on s'est régalé quand même.
Wow,
en termes de football, là, pour moi, les deux matchs, c'est exceptionnel.
C'est l'une des meilleures confrontations, double confrontation de l'histoire.
L'an dernier, c'était Manchester City, Real, les deux matchs, là, et cette année, c'était ça. Quoi.
Ah ouais, bien sûr.
C'est fabuleux. Quoi.
Ça se rappelle un Liverpool-Dortmund, je crois, il y a quelques années. Non, magnifique.
Franchement, on a eu de la chance, on a été gâtés. On va commencer avec la Ligue 1. Marseille de retour en Champions League, c'est officiel. Les Marseillais se sont imposés 3-1 grâce à un somptueux but de Mason Greenwood et un doublé de Amine Gouiri. un doublé qui compte énormément et qui font tout simplement le Marseillais qui se sont imposés face au Havre 3-1 et qui permettent officiellement de retrouver la Ligue des Champions avec les défaites de leurs concurrents directs. On a pu voir l'AS Monaco aussi qui se sont imposés 2-0 face aux Lyonnais, un concurrent direct. Hein. Lyon qui ont perdu aller-retour contre l'AS Monaco cette saison. Rien ne va plus du côté lyonnais hein, qui viennent d'enchaîner une deuxième défaite et tout simplement, ils viennent de dire pratiquement, en tout cas, il faudrait un miracle pour que Lyon aille en Ligue des Champions. Il faudrait que Strasbourg perde leur prochain match, Lille perde leur prochain match et aussi Strasbourg, Lille et Nice perdent leur prochain match et qu'eux, ils gagnent avec une différence de but aussi pour accéder à tout ça. Voilà pour ce qui s'est passé en Ligue 1. Nice hein, aussi, qui se sont inclinés face à Rennes, 2-0 aussi. Hein. Tout se jouera lors de la dernière journée. Entre ces trois équipes que je viens de citer, tout va jouer. Le Paris Saint-Germain qui se sont imposés 4-1 avec l'équipe la plus jeune jamais alignée du côté des Parisiens. Hein. Moyenne d'âge 21 ans et 253 jours.
8 changements.
Ouais. 8 changements, hein, c'était un turnover obligé après cette demi-finale de Champions League. Et qui se sont quand même imposés face à la lanterne rouge de la Ligue 1, Montpellier, qui sont déjà destinés à retourner en Ligue 2. Et voilà. Quelles sont vos analyses, Philippe ?
Bah écoute, moi, ça conforte ce qu'on avait dit. Hein. J'avais dit que Marseille finirait deuxième du championnat, non pas qu'il fasse une saison extraordinaire. Mais le problème, c'est que les autres équipes, elles sont très inconstantes. Quoi. On l'a bien vu ce week-end. Strasbourg, qui était pourtant sur une bonne dynamique, a perdu un match important. Lille a souvent aussi perdu des matchs importants. Voilà. Monaco, ils n'ont pas toujours fait preuve de régularité dans cette saison. Donc voilà, donc c'est bien, c'est ce qui fait la différence. Nice aussi, manque de régularité. Alors tout est bon, que Monaco soit troisième, que Marseille soit deuxième, finalement, c'est pas très surprenant. Après, tout est vraiment ouvert pour les autres places européennes. Hein. Impossible de dire, vu le nombre de manque de régularité de ces équipes, qui va peut-être l'imposer. Je dirais peut-être un petit chouïa pour Lille. Qui passera par un tour préliminaire pour Nice après qui fera une Ligue Europa et puis Strasbourg.
Moi je pense que c'est les cinquièmes qui vont faire les barrages cette année.
Les cinquièmes qui vont faire les barrages, c'est-à-dire que si Paris Saint-Germain gagne le septième, il est en conférence.
Pour moi, le Paris Saint-Germain vont gagner la Champions.
Oui, s'il gagne la Coupe de France.
La Coupe de France, ça c'est Ligue Europa la Champions.
Oui, mais ça n'a aucun impact la Ligue des Champions sur le changement.
Si tu gagnes la Ligue des Champions, t'as pas une autre place en Ligue des Champions.
Non,
parce que c'est au coefficient.
Oui, c'est au coefficient. Par contre, ça fait du bien pour le coefficient. Ouais. Non. Donc là, au moins le septième peut être européen.
En tout cas, oui,
le septième. Les Lyonnais doivent être supporters du Paris Saint-Germain s'ils veulent espérer faire.
Faudrait déjà qu'ils finissent septième.
Oui. Parce que il y a trop d'écart aussi. Il y a trop d'écart avec le huitième, je crois. Je crois que
il y a 6 points. Je crois,
ouais, donc il y a trop d'écart. C'est fini. C'est fini. Voilà. Donc après, ça va jouer entre Strasbourg, Lille et Nice. Mais je l'ai dit, moi, Lille. Ni Strasbourg, oui, à peu près dans cet ordre-là. Et puis, ça ne bougera pas entre Marseille et Monaco. Marseille, même si tout n'a pas été parfait, les Marseillais resteront, comme je l'avais dit, à la deuxième place.
Merci, Philippe. Chekenza, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces matchs en Ligue 1 ? L'AS Monaco, qui sont imposés 2-0 face aux Lyonnais. Hein. On a pu voir l'AS Monaco, au début, c'était 50-50. Et ensuite, deuxième période, on a pu voir l'AS Monaco prendre l'ascendant sur leur adversaire du soir et s'imposer 2-0 là-dessus.
Oui, ils ont pu, en fait, deuxième mi-temps, ils ont pu vraiment asseoir les dominations. Comme on a dit, en fait, ils ont été plus confiants, ils ont été plus concrets. Ils ont montré vraiment, en fait, ce dévouement vraiment à gagner tout ça parce qu'ils s'y jouaient. En fait, c'était un match vraiment qui était important. Et on a senti un peu les Lyonnais un peu sur la fin, un peu lésés et tout ça, un peu dans le doute. Mais après, c'est le football. La meilleure équipe dans l'ensemble a remporté, à mon avis. Voilà, parce que vu le match et tout, au début du match, il y avait de l'enjeu et tout ça, en fait. Je crois que la défaite, en fait, à Manchester a un peu plombé vraiment la saison lyonnaise. Oui, au niveau du moral et tout ça, ils se sentaient un peu affectés. Parce que là, c'était une porte pour eux vraiment de sauver une saison. Et pourquoi pas, en fait, faire un exploit vraiment auquel, en fait, le peuple rhodanien s'y attendait. Donc, du coup, ça a un peu joué un peu sur le moral et tout ça, vu la manière dont ils entament vraiment la seconde période et tout, même au niveau des duels, en fait, on a senti un peu, en fait, qu'ils avaient un peu levé le pied sur le ballon. C'était pas la même équipe, je sais pas vraiment qu'est-ce qui a dû se passer dans le vestiaire. Bon, sans doute que peut-être il y a eu des choses qui n'ont pas été, en fait, dites. Peut-être que, voilà, ils ont manqué de peaufiner certains ajustements, mais... Au final, c'est comme ça, c'est le football. Il y a un perdant et un gagnant. Monaco a montré plus d'envie. Ils ont montré que vraiment, voilà, qu'ils méritaient vraiment de, voilà, de, d'aller en Ligue des Champions. Et concernant aussi, en fait, Nice, vraiment, c'est bon, vu vraiment le début de saison qu'ils nous ont proposé, je crois que c'est, moi, je crois que c'est pas, en fait, c'est pas Nice qui est en difficulté, mais c'est Habib Bey vraiment qui a rehaussé le niveau de cette équipe rennaise qui était vraiment dans le dur. Et là, vraiment, avec Habib Bey, on a vu un nouveau Rennes. Un Rennes vraiment qui jouait, même un Rennes, même quand il perd des matchs, il perd vraiment les âmes à la main. On a vu une équipe du Rennes vraiment qui est, en fait, c'est un collectif, en fait, qui s'est reconstitué. Voilà, on a vu que vraiment, il y a les uns aux autres qui couvrent et tout ça, que ce soit au milieu de terrain, en fait. On a vu une équipe, en fait, c'est plus une équipe que des individualités que, qu'on avait au début de saison où ils étaient vraiment, Rennes étaient dans le dur. Et ça... ça promet pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine. Ça promet, je le vois, pourquoi pas aller décrocher une place européenne. S'ils ont toujours cette lancée, avec la prépa, en fait, ça serait, c'est ce qui serait un peu déterminant pour la suite.
Merci, Chetenza. Léo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de bah, sûrement déçu de l'Olympique Lyonnais?
Oui, déçu parce que bah, tu avais des attentes par rapport à cette équipe. Selon moi, en début de saison, il y avait l'effectif, même s'il a beaucoup été pointé du doigt, au moins l'effectif pour aller chercher la quatrième place. Voilà, il y a eu des événements contraires. Je pense qu'il y a le match de Manchester United qui a beaucoup pesé dans les têtes. Mais il faut aussi se souvenir que juste après, tu as le derby que ouais, tu perds.
Ils ont perdu.
Dans un contexte très étrange. T'as le match contre Lens que tu perds en ayant dominé toute la rencontre aussi. Donc forcément, dans les têtes, au moment, tu dois te dire que tu vas pas réussir forcément. Et là où par contre, je suis pas d'accord avec toi, c'est sur la forme rennaise. Parce que Rennes a affronté beaucoup de petits adversaires, entre guillemets. Et quand ils sont venus à Lyon il y a deux semaines, ils en ont mangé quatre et on les a pas vus dans le jeu, on les a pas vus dans les attitudes. Nice, c'est une équipe qui est un petit peu en dents de scie, qui gagne ric-rac 1-0, qui a des joueurs, il y a un bon effectif, il y a un bon coach, mais c'est une équipe voilà, qui est inconstante à la fois dans le jeu comme dans les résultats. Ils ont même été sifflés à l'Allianz Riviera il y a quelques semaines après une victoire pourtant. Du coup, la course à la Ligue des Champions, ils y sont encore. Mais moi, si je devais personnellement choisir, je dirais qu'il vaudrait mieux pour le football français que Lille y aille. D'une part, parce que Lille est un club qui travaille bien. C'est un club qui commence à avoir l'habitude maintenant de jouer les grandes compétitions européennes, qui a bien représenté. Strasbourg, de l'autre côté, c'est une équipe qui va se faire dépouiller cet été, soit par Chelsea. On a déjà vu que Emega serait sur les tablettes de Chelsea, et j'imagine que d'autres joueurs vont également quitter le navire. Et Nice, c'est une équipe, malheureusement, qui va certainement perdre en atout et qui ne va pas pouvoir se renforcer parce qu'Ineos n'investira pas un centime dans l'équipe cet été. Ou alors à moindre coût, parce que quand on voit déjà ce qui se passe à Manchester United, on a du mal à se dire que Nice va pouvoir profiter de l'argent d'Ineos. Donc voilà, ça va nous offrir une dernière journée intéressante, avec quand même de l'enjeu, puisqu'on parlait de Lyon en Ligue Europa Conférence, mais qui peuvent quand même terminer plus haut, parce qu'il faudrait, j'ai du mal à croire que Lille, Strasbourg et Nice vont tous gagner leur match. Sachant qu'il y en a qui ont des déplacements un petit peu compliqués, entre guillemets. Donc Lyon peut aller chercher la Ligue Europa, pas la Ligue des Champions, j'y crois pas du tout, ils ont loupé le coche. Mais la Ligue Europa, sachant que tu reçois Angers, qui est maintenu, qui va venir tranquille, tu vas essayer de te racheter à domicile quand même pour le dernier match de la saison. Donc voilà, ça va être intéressant, mais il n'y a pas trop d'enjeux outre ça.
Oui, elle a dit, ceci dit, excepté Strasbourg, c'est les mêmes équipes que l'année dernière, hein, qui ont joué le haut du tableau. Oui. Léo le disait, Lille, c'est une certaine régularité. Ils font les Coupes d'Europe depuis quelques années. Ouais. Bon, Monaco, ils y étaient cette saison. Ils y sont souvent allés. D'ailleurs, je crois que c'est le club français qui a le plus fait de Coupes d'Europe ces dernières années. Oui. Bon, voilà, il n'y a que le retour de Marseille. Hein. Sinon, Lyon, bah, ils étaient aussi en, donc, en Coupe d'Europe. Donc, on a quand même une certaine forme de régularité au niveau des clubs qui viennent faire les Coupes d'Europe. Même si dans leur performance, c'est des saisons assez irrégulières au niveau de leurs résultats. Quoi.
Mais Lille, par contre, même sur le Qatari, en fait, c'est une équipe qui gagne au moins deux fois le titre. En fait, quand tu vois avec, avec la génération des Gervinho, après, là, il n'y a pas longtemps, ils ont gagné le titre. En fait, oui. Ils ont mis en fait, à la peine,
grâce
à la ramasse
du PSG.
Tu vois, donc,
ouais.
Avec
grâce
lui,
à la suffisance du PSG.
Voilà, oui, avec, bien sûr, avec Jonathan David et tout ça. Donc, c'est une équipe qui mérite vraiment, oui, qui mérite vraiment de jouer le haut de tableau. Après, en fait, le championnat français, je crois que. Vu les performances des équipes françaises en Coupe d'Europe, voilà, on montrait aussi que là, qu'on pouvait bomber le torse, que même en Europe, voilà, qu'on avait vraiment du potentiel et tout, et que c'est en fait c'est un championnat sur lequel il va falloir compter plus tard et mettre du respect aussi.
Merci, Cheikh Kenza. Salson, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de bah, la victoire du Paris Saint-Germain, même si c'est une victoire qui ne compte pas pour les deux clubs. Voilà quoi, le Paris Saint-Germain sont imposés 4-1, avec un triplé notamment de Gonzalo Ramos, aussi à souligner.
Ouais, donc triple Ramos. Bah après, moi, je suis pas étonné de sa qualité devant le but. Le peu de temps de jeu qu'il a, il arrive toujours à être décisif avec le Paris Saint-Germain. C'est une bonne nouvelle pour lui, c'est bien pour la confiance. Après, là, pour ce qui est de la victoire du Paris Saint-Germain, bon, t'as un Montpellier qui savent qu'ils descendent. Paris Saint-Germain, ils ont remanié, ils ont mis beaucoup.
Ils jouaient bien. En tout cas, première mi-temps,
ouais,
disons
que... Bon, et sur
l'assurance,
en plus, hein. C'est
oui,
bien.
À la Mosson, en
plus. Pour le centre de formation. Hein.
C'est bien pour le Paris Saint-Germain, ouais. C'est la bonne pub. On fait tourner un peu les petits jeunes.
Troisième gardien, en
plus. Ouais, voilà. Après, ouais, troisième gardien, t'as Mbaye qui joue, Mayulu qui marque.
Sachant qu'il y a des jeunes qui ont joué qui vont certainement partir cet été, en plus.
Ouais, en plus. Ouais.
Bah ouais, j'espère en prêt. Comme un joueur comme Mbaye, quand même, tu dois le garder en... Quand même après, je pense que c'est un joueur d'avenir. Et tu as même le défenseur central, le petit jeune que j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, lui a fait une très belle prestation.
Ouais, il
a
été, très bon.
Franchement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. En plus, je crois que c'est un défenseur qui, l'année dernière, jouait à Torcy, je crois. Si je dis pas de bêtises, il jouait à Torcy et là, il se retrouve sur le terrain de Ligue 1. Donc c'est vraiment pas mal.
Ouais, c'est fort.
Et non, franchement, c'est rien à dire. Hein. À part que je pense que c'était plus intéressant de regarder les autres matchs parce qu'il y avait plus de suspense. Et maintenant, comme je rejoins Lucas et Philippe, Léo et Philippe, qui ont dit que la dernière journée va être passionnante et il va y avoir pas mal de suspense, surtout pour Strasbourg et qui
nice,
joue
en, nice,
qui, nice,
Lille,
nice, ouais. Ouais, plutôt Lille et Strasbourg parce qu'ils jouent des équipes qui jouent jouent le maintien. Donc ça va être des matchs très costauds, très difficiles.
Saint-Etienne.
Oui, et puis oui, j'allais le dire, il y a Saint-Etienne-Havre aussi. Hein. Oui. Et attention, en terrain, s'ils ne sont pas complètement.
Ils sont pas complètement
à l'abri, hein. Ils peuvent faire les barrages là, si ça se passe mal. Hein.
Même Angers, hein. Il me semble qu'Angers n'est pas officiel.
Angers est sauvé.
Ah oui,
Angers est sauvé, oui. Oui. Angers est sauvé. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir une petite décompression pour Angers, justement. Mais Angers est sauvé, mais Reims et Nantes, attention, ils peuvent faire un barrage.
Ouais.
Il y a que 2 points d'écart avec le 16e. Hein. Ouais.
Ça peut être très compliqué. Voilà, en tout cas, pour la Ligue 1, on va rappeler le classement. Le Paris Saint-Germain en tête, tout simplement en tête, est déjà champion. Et deuxième, l'OM, qui sont deuxièmes, qui n'ont pas perdu leur place de deuxième et qui vont se battre aussi hein, pour leur place de dauphin. Ouais, hein, c'est l'objectif.
Mathématiquement, c'est pas fini, mais je pense que bon, ils y arriveront.
Oui, et bah attention, hein, en tout cas, point. Et Monaco 3e avec 61 points, Nice 4e avec 57 points, avec une meilleure différence de but que Lille et que Strasbourg aussi à égalité de points. Hein. Et Lyon 54 points, 7e, oui, Lyon ne peuvent pas se faire rattraper et peuvent espérer de passer 4e, pourquoi pas, à moins d'un miracle lors de
cette
dernière journée.
Il faudrait quand même beaucoup de miracles. Là.
Bah, ce week-end, les trois ont perdu. Hein. Bon, après, que ça se répète une deuxième fois, c'est pas...
Non, puis après, il y a des golavrages en ligne de compte. Alors là, ouf.
Et là, pour le bas de tableau, Montpellier avec 16 points déjà condamnés. Saint-Etienne avec 30 points qui peuvent encore sauver avec une victoire seulement. Ou peuvent être barragistes si le Havre perd. Et si le Havre perd, ils peuvent être barragistes. Non, même pas parce que la différence de but est... Et voilà, il y a 5 buts de différence, tout simplement. Du coup, ça va être compliqué quand même. Le Havre, 16e avec 31 points. Nantes, 33 points. Et Reims, 33 points. Oui. Angers, oui, qui sont officiellement sauvés avec 36 points. Du coup, il faudrait au moins un match nul pour Reims et Nantes s'assurer de rester en Ligue 1 pour la saison prochaine.
Le Havre peut gagner et un des deux battu, bah, il est barragiste.
Je pense même que le Havre va se maintenir.
Bah, le Havre, ils vont à Strasbourg. Hein. Strasbourg,
je pense qu'ils vont
aussi.
Mais Strasbourg aussi devront jouer quelque chose.
Il y a tellement d'inconstance.
Nantes, ceux qui sont un peu favoris, on va dire, c'est Nantes. Nantes qui joue à domicile face à Montpellier. Qui n'ont plus rien à jouer. Et Nantes, voilà, Nantes peuvent assurer le coup.
Qui joue à la Beaujoire, donc
c'est Reims, ils font quoi?
Et Reims.
Ça joue
Reims, ils jouent contre Lille.
Lille.
Ah! Oui, ouais. Hein, ça va être compliqué, voilà.
Ouais.
Là, l'exemple, où là, ils peuvent être battus par Lille. Le Havre gagne, et ben Reims, c'est barragiste.
C'est un mini-derby, là, non?
Reims, vraiment, je comprends pas. Il y a quelques années, vraiment, c'était une très bonne équipe.
Et Saint-Etienne à domicile qui vont jouer contre Toulouse. On va pas relancer.
Oui, qui n'a plus rien à jouer. Donc, une équipe de milieu de tableau qui n'a plus rien à jouer. Donc,
contre Toulouse, ils n'ont plus rien à jouer, mais bon, on sait qu'ils... Voilà, ils jouent quand même un peu. Et Angers, comme tu l'as si bien dit, n'ont rien à jouer aussi. Ils vont aller jouer à Lyon. Et Marseille, Rennes, bah, Rennes qui sont déjà qualifiés. Et Marseille qui vont jouer à domicile pour la seconde place.
Rennes n'a plus rien à jouer non plus. Donc,
Oui, Auxerre aussi déjà qualifié face au Paris Saint-Germain. Ça va être un match de gala pour cette dernière journée.
On met le trophée au parc en plus.
C'est ça. Et en plus, Reims qui ont aussi la Coupe de France à jouer.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc Reims peuvent être relégables et avoir...
C'est déjà arrivé, ça.
Et avoir une finale de Coupe de France à jouer. C'est beau. On va faire une petite virgule avant de commencer avec la Ligue des Champions. On va rentrer direct dans le vif du sujet. On arrive juste après avec la Ligue des Champions. Oui, mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain se sont qualifiés en finale de Champions League pour la deuxième fois en 5 ans. Tout simplement, quel exploit. Hein. Déjà, félicitations au parcours des Parisiens. Personne ne les attendait là. Il y a quelques mois, on parlait encore. Est-ce que le Paris Saint-Germain vont réussir à se qualifier pour les phases finales de la Ligue des Champions? Et ils passent au barrage et... On connaît déjà le parcours, hein. Une débâcle face à Brest. Ensuite, il continue après Brest, c'est autour de Liverpool. Liverpool qui passe à la casserole. Après Liverpool, c'est Aston Villa. Après Aston Villa, c'est Arsenal. Et après Arsenal, là...
C'est l'International et Milan.
C'est l'Inter.
Exactement, c'est l'Inter en finale de Champions pour terminer tout ça. Et l'Inter aussi qui ont eu leur parcours en éliminant le Bayern, le FC Barcelone.
Mais ils ont fini dans les 4 ou 5 premiers de poule, je crois, l'Inter, non?
L'Inter, c'était 3e.
L'Inter, c'était 3e. D'ailleurs, sur les 4 demi-finalistes, 3 étaient dans les 5 premiers.
C'est
Barcelone,
ça.
Arsenal donc et puis
ça,
l'Inter.
Ça compte
avec le PSG qui revient de loin.
Le PSG qui revient de très loin. C'est peut-être un signe. Hein. En tout cas,
Peut-être.
On espère,
il y a quelques signes, on en parlera tout à l'heure. Il y a peut-être quelques signes.
C'est ça. Le Paris Saint-Germain qui se sont imposés 2-1 malgré le pénalty loupé de Vitinha. C'était pas vraiment de peur.
Non, Paris n'a pas
de peur. Fabien Ruiz a marqué en début de match. Hakimi a fait le break du 3-0 sur la double confrontation. Et là, même quand Saka marque et loupe une grosse occasion derrière, t'es quand même assez confiant parce que tu te dis le Paris Saint-Germain peuvent en mettre encore d'autres derrière. Et tout simplement, le Paris Saint-Germain qui se sont qualifiés. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Parisiens et de leur performance pour qu'ils soient là en finale de Ligue des Champions Je t'en prie, chez Kenza.
Bon, Paris, vraiment, a maîtrisé son sujet, en fait, de bout en bout. On a senti vraiment qu'il y a eu un travail qui a été là, qui a été fait. On a senti vraiment que c'est une équipe. Voilà, qui en fait, par le moment où Paris tergiversait un peu face à ce genre vraiment d'adversaire et tout, même dans les moments vraiment difficiles, en début de match, on avait un Arsenal vraiment qui poussait. Malgré ça, on a eu un Donnarumma qui était vraiment phénoménal, qui a toujours pu garder la cage inviolée et tout ça, jusqu'à après que Paris ait marqué le deuxième but. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est, en fait, c'est l'attitude parisienne. Même face au mur et tout ça, on a vu vraiment qu'il y a un mental qui s'est forgé et c'est comme ça qu'on gagne en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un mental de winner, C'est-à-dire que oui, avec Luis Enrique, on inculque la gagne et tout. Et même après le match et tout, il y a certains cas de vestiaire qui n'étaient pas, en fait, qui jubilaient pas, comme Ousmane Dembélé et tout ça, comme Marquis qui était un peu sous la réserve pour dire que oui, qu'il va falloir qu'il parle aux jeunes et tout, en fait, de la finale perdue en 2020. Donc, pour ne pas qu'on puisse, en fait, en revivre une telle tragédie. Donc, j'ai senti vraiment un Paris abouti, un Paris Saint-Germain sérieux, concentré, concerné vraiment. Une équipe vraiment qui a un objectif en tête, voilà, pourquoi pas ramener vraiment ce trophée vraiment en Île-de-France et pour le bonheur en fait vraiment du football français, que ça serait déjà la deuxième équipe. Et j'ai beaucoup aimé en fait que ce soit vraiment à partir des huitièmes de finale, le PSG a été tellement sérieux que pour moi c'est l'équipe qui mérite de la gagner. Même le parcours de l'Inter, il est si beau parce qu'ils sont des équipes vraiment terrifiantes, mais le PSG vraiment c'est une saison vraiment, il n'y a pas mieux que de la gagner pour avoir une saison vraiment aboutie. Et en fait, le Graal, ça serait vraiment une fête. C'est ce que j'ai à dire.
Merci, Cheikh Kenza. Salsan
je te rejoins pas sur une chose, c'est que tu dis que le Paris Saint-Germain a géré son match. Les 30 premières minutes, on va dire même peut-être jusqu'au but de Fabien Ruiz, le PSG se font quand même marcher dessus un petit peu quand même. Et je me suis dit.
Mais c'est la championne. Ouais, c'est la championne. Oui. Tu non, imagines enfin, qu'à un moment donné.
Ils
en fait
plus là par rapport à l'année dernière.
Non. Et après, il y a une chose qui est bien, c'est même dans la difficulté, ouais, on sent voilà. À Paris Saint-Germain.
Et c'est là qu'ils ont gagné.
Qui,
hein,
ouais. Voilà, on sent que.
C'est là qu'ils ont gagné.
On sent que ça va, c'est solide. T'as moins peur. Les autres années, tu dis, ah ouais, ça va rentrer. Et ça a rentré. Et là, c'est l'impression, même si c'est difficile, ils prennent l'eau, ils arrivent quand même à repousser. Après, comme tu viens de dire, t'as un Donnarumma aussi phénoménal. Il sort des parades incroyables. Il sort même la première parade qui sort de la main ferme, la claquette au sol. Il va au sol très rapidement. Ce taré-là, pour moi, il est impressionnant. Ouais. Et surtout que c'est un grand gardien. Donc, la vitesse à laquelle il s'emmène au sol. Non, franchement, c'était un bon match du Paris Saint-Germain. Après, à partir du but de Fabien Ruiz, même au milieu de terrain, c'est costaud à la récupération défensivement. Et bon, forcément, c'était un peu moins bien vu que Ousmane Dembélé n'était pas là. C'était plutôt Doué et Barcola. Il y a eu des ratés. Mais ils sont procuré des occasions. Et franchement, c'est
et
bien.
Et toi, ça t'inquiète pas le fait que Barcola ne soit pas chirurgical devant les cages, loupe ces grosses occasions quand même? Il y a ce petit bémol, non? Ou bien toi, ça t'inquiète pas?
M'inquiéter, non, ça reste un jeune, tu vois. Même si c'est vrai qu'il doit les mettre. Il y a des occasions qu'il doit finir. Mais... pour moi, ça reste un jeune. Là, en ce moment, il ne marque plus trop. Je crois qu'il est un peu en manque de confiance par rapport au début de saison. Au début de saison, il enchaînait les buts. Et là, il enchaîne moins. Je pense que c'est un manque de confiance. Mais si on est en début de saison, il a les occasions qu'il a là actuellement. Moi, pour moi, il les met. C'est un manque de confiance.
Donc là, tu comprends le fait qu'il soit sur le banc et qu'on préfère Désiré Doué.
Pour le moment, c'est assez justifié. C'est justifié. C'est après un Barcola, je pense quand même ça t'amène plus aussi de la profondeur qu'un Doué. Un Doué, c'est balle au pied, c'est plus intéressant, ça peut éliminer. Mais Barcola, ça t'emmène, mais c'est juste qu'il finit pas. Mais
Barcola,
faut le laisser,
c'est un jeu d'espace en fait, comme on dit.
Mais à chaque fois qu'il rentre, il a des occasions, il va déborder, il arrive à se procurer des occasions. C'est juste devant le but,
il est nonchalant devant le but.
Nonchalant, je trouve.
C'est des choses qu'ils ont travaillé aussi.
Je suis pas nonchalant, je dirais plus c'est un manque d'efficacité seulement. Ouais. Juste là, je te rejoins sur le dernier. Et à un moment, il a la balle de but, il est vraiment devant. Il élimine un joueur, il lui met une feinte et le joueur il part. Et je crois qu'il met un peu de temps à tirer et il se fait contrer.
Il t'agivasse un peu dans le dernier geste.
Il se fait une feinte, il avait le temps d'ajuster en fait.
C'est un manque de confiance pour moi. J'ai l'impression qu'il esquive, même des fois, il esquive le but, il la met en retrait. Tu vois, c'est des joueurs en manque de confiance. Et il est jeune, après, il est vraiment jeune. Il a encore du.
Normalement, t'as cette fougue, non? Quand t'es jeune, tu veux à tout prix. Voilà.
Ouais, tu veux montrer vraiment que t'as ta place à gagner. Par contre, je t'interromps pas, mais ce que t'as dit vraiment, c'est des choses aussi que Luis Enrique, sur lesquelles il doit beaucoup miser en fait. Parce qu'en fait, face à une équipe vraiment qui est chirurgicale comme l'Inter, si tu as des occasions comme ça, tu les mets pas, en fait. Après, tu peux t'en prendre un contre et ça fait.
Ouais, non, mais arriver à un certain niveau.
C'est des erreurs qui payent cash, en fait. Parce que quand tu joues finale de Ligue des Champions, finale de Coupe d'Europe, les exigences, elles sont à un tel niveau qu'une occasion, c'est de l'or, en fait. Tu la mets et après.
Je te rejoins là-dessus. À un certain niveau, les occasions loupées. Elle paye cash, surtout à ce niveau-là de la Ligue des Champions. Mais bon, pour l'instant, c'est passé. Mais en finale, ce genre d'occasion, tu les rates, ça ne pardonne pas du tout. Et surtout face à l'Inter qui ont fait un très gros parcours. Je trouve que les gens les sous-estiment un peu trop, parce que j'entends un peu trop les gens dire que le PSG est limite favori. Pour moi, ça reste l'Inter de Milan qui reste favori. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que l'Inter de Milan, c'est, ils ont été pas mal dans le dernier carré ces dernières Ligue des Champions. C'est une équipe costaud, ça ne fait pas de bruit. Il y a un bon équilibre. Ils ont sorti le Barça, ils ont sorti le Bayern. Voilà, faut pas les enterrer.
C'est deux finales, hein, c'est deux finales en l'espace de deux ans. Ouais, 2023, pas, 2025. Donc, pas, attention. Il y a du sourire, c'est le même entraîneur.
Et puis, la Ligue Europa, je crois que c'est en 2020, je crois. Contre Séville, ils avaient perdu.
C'était un très beau match.
Ouais.
Philippe, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Écoute, ça me rappelle ce qu'on disait en début de cette émission, que le plus grand danger du Paris Saint-Germain, c'était le Paris Saint-Germain lui-même cette année. Je crois qu'il a gagné cette maturité. C'est vrai que Paris, parfois, est bousculé, Paris souffle, mais Paris ne craque plus. Paris ne tombe plus, à l'image de son gardien Donnarumma. Ouais, je pense qu'il y a eu quand même deux moments forts dans cette saison. Ça a été le match contre Manchester City, où là, on a vu un Paris Saint-Germain en gagnant ce match. J'allais dire le meilleur match qu'ils aient fait en phase de poule, où ils ont basculé dans une autre
dimension,
dans une autre dynamique. Et puis, naturellement, le match de Liverpool. Ils savent renverser la situation. Ils gagnent le match au tir au but. Et à partir de là, c'est notre équipe. C'est vrai que c'est une équipe solidaire qui sait faire front. La seule fois où on a un tout petit peu tremblé, ça a été les 20 minutes contre Aston Villa. Et puis, en plus, ils ont la chance de pouvoir être efficaces et réalistes en marquant sur les quelques temps forts qu'ils ont, à l'image des buts de Ruiz et puis d'Hakimi. Moi, je n'ai pas véritablement tremblé, même si j'ai trouvé quand même Arsenal meilleur dans ce match. Match retour qu'au match aller.
J'ai l'impression que ce Arsenal-là, offensivement, ils font pas peur. Il y a pas de finisseur.
Ils ont quand même un peu plus d'occasion qu'au match aller.
Ça fait pas
peur. Après, il y a eu un bon Donnarumma une nouvelle fois quand même.
T'as pas un neuf. Qu'il y a le neuf Mais oui. Après,
moi, j'ai pas vraiment. On sent cette équipe vraiment sereine. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il en viendra face à l'Inter, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment franchi cette maturité cette année qui peut leur permettre de gagner la Ligue des Champions.
Merci Philippe. En tout cas, on y croit cette année.
Bien sûr,
c'est la bonne.
Et puis il y a des signes, tu sais, signes pour les superstitieux.
Les planètes sont alignées depuis un certain moment.
Comme Marseille, Paris Saint-Germain jouera à Munich. Elle a déjà perdu une finale comme Marseille. Ouais. C'est une équipe de Milan. Et je crois que toutes les
il y a quatre finales qui sont jouées là-bas. Et c'était
la première
les
équipe qui a gagné sa Coupe d'Europe, sa Ligue des Champions, c'est à Munich.
Exactement.
Dortmund, Chelsea, je crois. Et puis voilà.
Nottingham Forest.
Donc voilà, après on va se.
Mais après aussi, en fait, au football, c'est superstition. On veut mettre ça, en fait, loin derrière, en fait. Parce que vraiment, cette équipe, on a beaucoup parlé du PSG, mais cette équipe de l'Inter aussi, elle est intacte. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est une équipe vraiment.
On arrive chez Kenza. On arrive aux côtés de l'Inter. On arrive. Léo, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de la performance des Parisiens et du match sur cette double confrontation?
C'est une performance déjà qui est sérieuse, même si je pense qu'il faut qu'on parle d'Arsenal, comme l'a dit mon collègue, qui m'a déçu. C'est une équipe qui est décevante. Tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions, comme Martinelli, par exemple. Saka, moi j'ai été déçu. T'as pas d'attaquant, t'as ton défenseur central qui est blessé. Enfin, en parlant de Gabriel, enfin, t'as beaucoup trop de manque dans cette équipe pour espérer quelque chose. Et je trouve ça déjà très fort qu'ils soient arrivés en demi-finale de Ligue des Champions, plus qu'ils aient bien figuré en première ligue. C'est un gros travail d'Arteta. Même si je me demande jusqu'à quand la direction d'Arsenal va accepter qu'Arteta ne gagne rien. Parce que depuis qu'il est là, il n'a rien gagné à part une League Cup, il me semble.
Marc, ce n'est pas nouveau, Arsenal. Hein. Ils n'ont pas gagné grand-chose. Ça fait des années qu'ils ont un certain plafond de verre. Hein,
mais voilà. Après, moi, il y a quelque chose sur laquelle je n'ai pas été d'accord.
Parce que, excuse-moi, Léo, j'ajoute un peu d'eau à ton moulin. Parce qu'on les voyait comme les grands méchants loups quand ils ont sorti le Real Madrid. On disait que c'était une prestation XXL et que Arsenal allait tout droit vers le titre. En tout cas, la presse s'enflammait et c'est ce qu'il disait. Mais pourtant, il y a plein de gens aussi qui contredisaient ses propos et qui disaient c'est une équipe du Real malade. Oui. C'est pour ça qu'ils se font aussi facilement par Arsenal, mais sur deux super buts d'ailleurs de Declan Rice. Sinon, sinon au final, dans le match, il y a pas une si grande domination.
Non, ils ont su saisir leurs occasions, quoi. Ouais. Ils ont marqué à l'aller, ils marquent trois buts sur leur force principale qui sont les coups de pied arrêtés. Au retour, ils gagnent aussi sur un but à la dernière minute. voilà, ils ont fait le boulot. C'est pas anodin de battre le Real à l'aller comme au retour. Un club comme celui-ci, on le sait. Pour autant, t'as beaucoup de lacunes. Ça a été mis en exergue contre le Paris Saint-Germain. Il y a un seul truc, moi, dans la lecture du match qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu que c'était Hakimi qui avait été élu homme du match, il me semble, au retour.
Oui.
Pour moi, l'homme du match, c'est Donnarumma.
Ouais, Donnarumma.
Pour moi, c'est Donnarumma, ouais. Parce que si tu prends un but dans les 5 premières minutes, on ne sait pas ensuite ce qui se serait passé. On a vu qu'à Aston Villa, le PSG a reculé. Ils ne sont pas passés loin d'en prendre un troisième sur une séquence de pression. Donc pour moi, Donnarumma conditionne vraiment la... D'ailleurs, comme il l'avait fait à Liverpool, comme il l'a fait à Villa...
Je crois qu'il est à l'image de l'équipe. Hein. Il y a la totale confiance. Il est à l'image de l'équipe. Hein. L'année dernière, il sombrait.
Tout à fait.
Et là, cette année,
cette saison, on le voit même sortir dans les airs, qui était une de ses très grosses faiblesses. Pour moi, c'est lui l'homme, à la fois du match, mais lui l'homme de la phase finale.
L'homme de la saison, oui.
À partir de Manchester City, c'est lui le capitaine du terrain.
Je crois que c'est le détonateur, en fait, du sentiment de confiance et tout ça. Parce qu'en fait, quand on a un gardien qui est rassurant dans les cages, on se dit que voilà, à un moment donné, qu'on doit faire le taf, en fait. Parce qu'après, on peut se prendre des tonnes d'occasions, mais on a notre dernier rempart qui sera là, en fait, voilà, qui pourra vraiment sauver l'honneur et tout ça, qui pourra nous permettre de franchir certains paliers. Donc, du coup, ça joue aussi sur le mental, en fait. Parce que tu vois qu'on a le PSG, vraiment une défense. Moi, je crois que le PSG a une très bonne défense. Mais hormis des erreurs de Marquis, qui est par moment, qui est en dessin, vraiment. Mais avec Pacho, c'est rassurant, que ce soit Nuno Mendes et aussi Hakimi. Je crois que. Moi, le principal atout du PSG face à cette équipe de l'Inter, c'est que le danger peut venir de n'importe où. Que ce soit un défenseur ou un milieu de terrain, cette équipe, elle, ultra offensive. C'est-à-dire, c'est un turnover. Ça joue de tout le moment. Pacho peut se retrouver en attaque, mettre un but.
Mais c'est ça aussi le problème, par contre. C'est que quand tu regardes, il y a beaucoup d'espace dans le dos des latéraux. Mmh. Et ça, avec t'as Marcus Thuram en face, t'as Martinez qui sera de retour à 100%. Mmh. On l'a vu contre le Barça d'ailleurs, ce sont des points qui vont certainement pouvoir faire mal. Mmh. Et il suffit que Marquinhos, on ne sait pas, on l'a vu contre Arsenal, encore faire une bourde qui coûte rien, mais qui est anecdotique, mais au final, pas tant que ça, parce que lui, il est là depuis la remontada contre le Barça en 2017.
Il est là depuis belle lurette.
Il est de tous les échecs du Paris Saint-Germain, tu vois. Ouais. Donc voilà, et pour finir, non, c'était une prestation solide du Paris Saint-Germain. Ils ont été costauds quand il le fallait, ils ont su saisir les opportunités, c'est aussi ça une grande équipe. Et comme le disait Ferguson à l'époque, on peut gagner des matchs grâce à une grande attaque, mais on gagne des titres grâce à un grand gardien. Et Donnarumma, cette saison, montre que c'est un grand gardien qui peut faire gagner des titres.
Et les arrières marquent souvent en Paris, en plus. Hakimi,
faudra demander pardon à Donnarumma. Mais moi, le premier, parce que j'étais un des premiers à le critiquer.
Oui, mais c'était à juste titre.
C'est normal, en fait, tu fais ton métier. Parce que...
Il y a eu des matchs où il est passé à travers.
Non, bien sûr. C'est pour dire que.
Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. S'il fait une grosse bourde en finale de Ligue des Champions, on retiendra que ça.
Oui, mais il faut souligner que si le PSG en arrive là, c'est quand même une grande partie grâce à lui.
En vrai, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Oui, mais dans tous les cas, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui.
Je suis d'accord avec Léo. Aston Villa, s'il n'est pas décisif dans les 20 minutes.
À ce que soit Aston, à Liverpool.
Là, ça peut complètement basculer. Hein.
À Liverpool, à Arsenal. C'est un de tir au but.
Voilà,
pardon. Il me semble.
Bien sûr.
Donc là, pour moi, il faut.
Ah ouais, non,
je peux le remercier dès à présent. Hein. Si en final, il fait une boulette, je ne peux pas cracher sur tout ce qu'il a fait.
Ah mais c'est ce qu'on retiendra malheureusement.
Oui, en fait, on ne retient que la fin, en fait. Parce qu'il y a un truc que j'aimerais, en fait, élucider et tout ça. Donnarumma, on a senti qu'il est concentré. Et là, vraiment, c'est la saison pour lui, vraiment, de. En fait. De s'imposer et de mettre en fait à nouveau du respect sur son nom. Parce que quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est un total espoir en fait. On se dit que voilà, le gardien, le meilleur gardien de l'Euro et tout ça. Donc c'est
dans cette optique, voilà, l'Euro 2021.
C'est dans cette optique qui vient en fait vraiment pour redonner en fait une belle vitrine en fait pour sécuriser en fait ce poste qui était un peu fébrile au niveau du PSG. Donc ici, il est là et qu'il fait vraiment cette prestation.
Excuse-moi, Shekenza, mais je ne sais pas si c'était fébrile. Hein. À ce moment-là, il y avait Keylor Navas qui a fait deux grandes campagnes quand même. Ils ont fait finale de Champions League, demi-finale de Champions League. Il sort un penalty de Léo Messi. Il sort pas mal d'arrêts face au grand.
Avant Keylor.
Mais comme tu dis qu'à ce moment-là, quand Donnarumma arrive,
il n'était pas mis dans les meilleures dispositions. La concurrence avec Navas, ça n'allait pas. Quoi.
Ouais.
Fallait faire un choix. Le choix n'était pas fait de la part des dirigeants.
Exactement. Voilà, merci Shekenza. Du coup, on va clôturer. Inter Ouais. Barça quand même.
C'est le match de l'année.
C'est le match de l'année.
La double confrontation. Ah ouais,
les deux. Tout matchs. Simplement.
C'est fabuleux quand même. Hein.
Qu'est-ce que t'en as pensé
ouais, c'est fabuleux histoire. Pour le football. Philippe. Après, c'est faut toujours un vainqueur. Toujours. Voilà. C'est l'Inter, mais ça aurait pu être Barcelone. Hein. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Il y avait tellement de talent des deux côés.
Mais c'était l'Inter. Que... C'était bah oui, l'Inter. C'est l'Inter. La planète était alignée aussi du côté de l'Inter depuis un certain moment.
Ça souvent. On en parlait il y a 15 jours, ça m'a rappelé un peu les deux confrontations entre le Real Madrid et Manchester City l'année dernière, qui s'était joué aussi au tir au but et où les deux équipes étaient très proches. T'avais donné, il y a toujours, hein, dans une saison comme ça, un ou deux matchs qui sont des matchs références. Bon, bah voilà, c'est l'Inter, bah c'est l'Inter. Hein, mais c'est vrai que si ça avait été le Barça, c'était pareil. Bon, c'est dommage pour certains joueurs, comme Yamal par exemple, qui est quand même un joueur exceptionnel, mais enfin bon, il y en a d'autres en face aussi, donc... Ouais. Mais en tout cas, on s'est régalé. Hein. Ça fait du bien au foot. Hein. Ouais.
Ça a vraiment fait du bien. C'était deux soirées.
Début, en plus, 3-3, 4-3.
Quand tu fais la comparaison avec l'autre demi-finale, c'est le jour et la nuit.
Ah bah oui. C'est fabuleux. Et les deux matchs, en plus. Hein. Ouais. Sans compter les occasions qu'il y a eu, en plus.
Léo ?
Ouais, c'était... moi, je vous l'ai dit en off, je pense que c'est... De moi, ce que j'ai vu en tant qu'observateur du foot, c'est peut-être la plus grande double confrontation que j'ai pu voir. On a cité aussi City
Tottenham-Ajax.
C'était exceptionnel, toujours, mais là, en fait, ce qui s'ajoutait en plus, c'est une qualité technique qui était hors norme. T'avais deux équipes, que ce soit l'Inter ou le Barça, on a vu des choses qu'on voit pas tous les week-ends sur les plus européennes. Et on parlait de Donnarumma, et il y en a un, moi, qui m'a choqué. Et je pense que je le mets dans le top de ce que j'ai vu de ma vie, pareil, c'est la performance de Sommer. Parce qu'il ne sort pas 50 000 arrêts, mais les 3 ou 4 qui sortent, même celle face à Yamal là, en fin de match, pour moi, ce sont des arrêts
décisifs.
Ce sont des arrêts de top mondial.
Même l'arrêt sur la frappe enroulée de Yamal.
Exceptionnel. Et je crois que personnellement, j'ai rarement vu ça d'un gardien. On a vu des gardiens qui faisaient... je me souviens de comment il s'appelle le gardien mexicain Ochoa au Parc des Princes par exemple avec Ajaccio qui avait sorti je sais plus combien d'arrêts ce qui est exceptionnel parce que c'est le nombre d'arrêts mais là c'est la qualité des arrêts le contexte face aux joueurs auxquels ils sont faits franchement c'était grandiose. Alors après il reproduira peut-être pas cette performance mais c'était assez exceptionnel.
C'était assez exceptionnel. Cheikh Kenza, es-tu d'accord avec ces déclarations hein ? On pense notamment à la finale du Real Madrid face à Liverpool où tout simplement Thibaut Courtois est monstrueux, hein, que ça soit sur les frappes de Mohamed Salah qui te sort en manchette ou les frappes de Sadio Mané. Est-ce que toi, ça t'a rappelé quelque chose ? Est-ce que ça te ravive quelque chose quand tu vois les performances de Yann Sommer qui ont été tout simplement historiques ? On s'en souviendra en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, bien sûr, on s'en souviendra longtemps. Parce qu'en fait, si l'Inter vraiment arrive à prendre l'ascendant et à gagner ce match, en fait, moi, en tout cas, je crois que pour ma part, en fait, c'est lui l'homme de cette demi. Que ce soit à l'aller comme au retour, face à cette armada barcelonaise.
À l'aller ?
Oui, que ce soit à l'aller comme au retour, en fait.
À l'aller, il n'y a pas eu de grands.
Non, même à l'aller, il n'y a pas eu de grands, mais il y a eu deux actions où sur lesquelles les Barcelonais, ils pouvaient vraiment scorer de ouf. C'est-à-dire qu'il te soit des arrêts, en fait. C'est-à-dire qu'il a des arrêts réflexes. Comme là, sur la frappe de Lamine Yamal, normalement, de base, les gardiens, ils partent avec la main opposée. Mais lui, il ne part pas avec la main opposée, il part avec la main ferme.
Ça, il part loin, surtout.
Oui, et avec la main ferme, une certaine détente. De base, ça, c'est des gestes qu'on ne voyait plus dans le football. C'était une autre époque. Tu voyais des gardiens, quand on était jeune, dans les années peut-être 2010, 2011, 12, tu voyais des gardiens partir avec la main ferme. Mais là, tu vois, il part avec la main ferme. Au contraire de la main opposée. Et en plus, c'est un gardien vraiment, en fait, je sais pas comment on dit, en fait, c'est un gardien...
Il est félin. Voilà. Moi, je le trouve félin.
Comme tu as dit, le mot parfait. Comme tu as dit, c'est le mot parfait, en fait. Et ce genre de gardien, vraiment, moi, je crois qu'il est sous-côté. Il est sous-côté, Yann Sommer. Oui, ben, je crois que cette campagne emblématique de l'Inter va le mettre un peu en avant. Je crois qu'il est un peu sous-coté face à certains gardiens, face à Courtois, par exemple, face à Testegen, face à Oblak.
Après, il n'a pas le niveau de Courtois.
Je ne parle pas de niveau, mais je parle de, quand je dis sous-coté, en fait, en termes de médias, en fait, médiatiquement parlant, ce n'est pas quelqu'un en fait, qui fait vendre. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas quelqu'un qui fait vendre. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qu'on va en parler sous la une un peu partout. Mais en termes de talent...
C'est un gardien qui a une belle carrière. Hein, voilà. Il passe par le Bayern, il fait le Borussia.
Il y a un écart, lui, il est grand, mais c'est quelqu'un vraiment qui gravit les marches petit à petit, en fait, qui fait son bonhomme de chemin, qu'on le veuille ou pas, et qui prouve, en fait, qu'il mérite qu'il ait du respect sur son nom, et à un moment donné, en fait, il y a ce côté-là. Et moi aussi, il y a quelqu'un vraiment qui m'a surpris, vraiment, c'est Marcus Thuram, dans son jeu, son ballon. En fait, face à ses appels et tout ça. Parce que le dernier but de l'Inter, il le crée tout seul, l'action. Bah oui, à un moment donné, on voit que le joueur vraiment... Je me demande, est-ce que le problème, c'est pas en EDF ?
T'as pas un autre joueur que Thuram qui t'a plus impressionné dans
Non, mais regarde le dernier but de Fratesi, l'action qu'il a
créée. Franchement,
quand
même, il est fou.
Qui le crée ?
Tu vois l'action.
Tu vois vraiment qu'on a un joueur vraiment qui a progressé. Ouais. C'est-à-dire le Marcus Thuram de Mönchengladbach et le Marcus Thuram de la saison dernière de l'Inter... Et sur Marcus Thuram, en fait, il y a une lâche palette de progression. Du coup, en fait, on sent vraiment que c'est un joueur vraiment qui commence à prendre du galon dans cette équipe, qui commence à prendre la responsabilité. Parce que tu t'imagines dans l'action déjà, c'est un jeu sans ballon. Et là, tu t'imagines la facilité avec laquelle il emmène Aroro dans son jeu, en fait, de corps, et qui ressort vraiment pour venir donner un ballon. Un ballon de but, en fait. C'est-à-dire que tu peux regarder l'action, il la crée toute seule. Et au final,
c'était très très fort.
Au final, il y a le but.
C'est dommage
fait.
Qu'ils ne soient pas en équipe de France comme ça, mon frère.
Ouais, c'est un autre débat. Et je pense que ça va être très dur. En tout cas, dans le système où on voit bien où il arrive le mieux, c'est vraiment avec ses deux attaquants. Hein. Ouais, et sinon, dans un autre système, c'est très compliqué.
Et même à l'aller, tu vois, en fait, la talonnade qui nous sont. En fait, on sent vraiment que c'est un joueur qui est en confiance. Il est dans sa saison. Et si vraiment en EDF, on pouvait vraiment revoir ce système, je crois qu'il pourrait nous apporter un plus, en fait, pour nos échéances futures.
Donc toi, tu serais prêt à laisser Marcus Thuram à le mettre dans de meilleures conditions, jouant en 4-4-2 et enlever Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, en tout cas dans le dispositif.
Si on joue à deux buteurs, c'est Mbappé et Dembélé devant. Oui.
Non, pas enlever, mais en fait Dembélé, on peut le mettre sur un côté. Pourquoi pas, en fait, c'est compliqué.
Il a fait la remarque aussi à Didier Deschamps qu'il le mettait encore sur le côté, ouais. Là, notamment à la remise des trophées UNFP. Ouais. On va passer, Salson, qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce match, tout simplement ?
Un match incroyable, que dire de plus ? Que ce soit l'aller comme au retour, des buts, incroyable. Même les retournements de situation, ça n'en finit pas. Le but à la 90e... qui nous donne des prolongations incroyable. Et moi, il y a un joueur qui aussi j'aimerais souligner, c'est Lamine Yamal, impressionnant.
Ah ouais, c'est dommage.
Faut quand même le souligner. Moi, je pense on faisait une comparaison avec Mbappé à cet âge, mais je suis désolé, Lamine Yamal à cet âge est plus impressionnant, largement plus impressionnant, que ce soit techniquement, même devant, c'est lui le bas, c'est lui qui porte le Barça.
La maturité aussi. Ah,
le danger, il arrive de chez lui, même la maturité, il prend la balle. Ouais, dès qu'il prend la balle, ça va vite.
Puis les titres.
Et les titres, les titres.
À 17 ans, les champions d'Europe.
Il va gagner sa deuxième Liga.
C'est pas fini.
On joue en Ligue des Nations en plus.
Le gars a 17 ans. En fait, c'est ce joueur-là qui m'a beaucoup impressionné dans cette match. Après, sinon, le match en général, même que ce soit le Barça. Le Barça, c'est offensivement, franchement, avec les Rafinha. Bon, même si Rafinha était un peu moins dedans, je trouve, sur le match. Ouais. Mais on sent que offensivement, Barça, c'est impressionnant cette saison. Mais défensivement, c'est faible. C'est leur point faible, en tout cas, cette saison. Au milieu de terrain, rien à dire avec Pedri, Gavi.
Frankie de Jong aussi qui revient à un très bon niveau.
Qui a fait un gros volume de jeu aussi.
Juste pour tempérer ça, il ne faut pas oublier que c'est une équipe très jeune aussi.
Ah oui,
très jeune. C'est une équipe qui avait au retour ni son latéral droit titulaire, Lewandowski, ni son latéral gauche titulaire. Donc ça fait beaucoup dans une équipe déjà très jeune.
Lewandowski
était absent aussi. Enfin, il est rentré en fin de match, quoi. Ce qui fait beaucoup de choses.
Koundé aussi.
Quand tu perds deux de tes joueurs majeurs déjà, trois puisqu'il y a Lewandowski, face à une équipe aussi forte que l'Inter, forcément, ça fait beaucoup.
Merci Léo. On va se faire une petite virgule avant d'enchaîner tout simplement avec la Liga. Hein. On a parlé du FC Barcelone, on va continuer avec le FC Barcelone. Le Barça qui se sont imposés 4 buts à 3 lors du Classico face au Real Madrid, malgré un triplé de Kiki. Tout simplement, ça n'aura pas suffi. Hein, ça n'aura pas suffi. Le Real Madrid qui avait pourtant bien commencé la partie avant que Lucas Vázquez décide de fêter Noël un peu plus tôt. On y revient dans quelques secondes. Triplé de Kylian Mbappé qui passe devant Lewandowski hein, à la course au Pichichi tout simplement, et là qui prend 2 buts d'avance à 3 journées de la fin. On pense que Kylian, ça va être du tout droit pour le Pichichi, on en parlait aussi. Il y avait pas mal de monde qui pensait pas qu'il allait le faire hein. Et là on pense que ça y va grâce à ce triplé là. En plus Lewandowski blessé de l'autre côté, je pense que ça va être compliqué quand même pour Lewandowski de le rattraper, à moins que rien n'est terminé, on verra bien. Mais voilà, le Barça qui sont imposés 4 buts à 3 et qui file tout droit vers un nouveau titre de Liga. Et ça sera tout simplement le 3e titre cette saison. Et qui ont tout simplement battu le Real Madrid avec 4 buts à 3. Avec notamment des grosses erreurs défensives du côté du Real. Hein, notamment Lucas Vázquez qui a offert... 2 buts ouais. Sur un plateau, et à ce niveau-là, ça paye cash, et on a pu voir tout simplement le Barça en profiter avec un but magnifique de Lamine Yamal qui fait un corps des siennes, hein, et aussi on a pu voir des buts de Rafinha aussi, et aussi doublé de Rafinha, un but de
Eric Garcia.
Eric Garcia, c'est ça, exactement. Merci, Cheikh Kenza. L'Atlético de Madrid qui sont imposés aussi 4 buts à 0 face à la Real Sociedad. Hein. L'Atlético de Madrid qui n'ont plus rien à jouer. Mais quand même, Sorloth qui a réalisé un quadruplé en 30 minutes. Hein. Sorloth, décidément, très très fort. Hein. Il a, en 12 minutes, il me semble, il a mis un triplé en 12 minutes. Tout simplement, et même pas 18 minutes après, il a mis un quadruplé. Sorloth à 4-0 à la mi-temps, le match était plié. L'Atlético de Madrid, ensuite, il gère 4 buts à 0. C'était assez facile de ce côté. L'Athletic Bilbao qui relève la tête suite à la Ligue Europa et qui s'impose 1 but à 0 aussi, qui consolide leur place de 4e. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, de ces matchs de Liga ? Léo ?
Juste pour rebondir sur Sorloth, la stat dont je viens de parler, à chaque fois que j'entends un joueur qui met un triplé comme ça très rapidement, je repense toujours à Lewandowski.
5 buts en...
Et je me dis en 9 minutes, c'est vraiment une folie. Puis la qualité des buts à l'époque qu'il avait marqué, c'est exceptionnel.
Ouais.
Et à chaque fois que j'entends un truc comme ça, je me dis ah ouais, quand même, tu vois, genre ça permet de te mettre encore plus en contexte. Du coup, pour revenir sur le match phare du week-end, et puis le match qui scelle le championnat, je pense, on a vu quand même qu'il y avait une grosse différence entre les deux équipes. Au-delà des erreurs individuelles, il y a eu un collectif défaillant. D'ailleurs, il y a une stat, c'est que le Real n'a pas été dans le camp du Barça pendant 23 minutes. Donc à ce niveau-là, forcément, ça se paye cash. Le Barça aurait pu pour autant pâtir de ses largesses défensives. D'ailleurs, Kylian Mbappé qui met un triplé, c'est pas anodin. Qui réalise la meilleure saison statistique d'un joueur au Real Madrid pour sa première campagne. Donc moi, je juge sa campagne bonne, sa première saison bonne. Même si malheureusement, le juge de paix pour un joueur comme ça, ça reste la Ligue des Champions où il s'est pas montré face à Arsenal. Après, dire que j'ai entendu sa saison allait rater, non, j'ai du mal à penser ça d'un mec qui met 40 pions dans une saison, dans un club comme le Real, avec tout ce que ça implique. Et même
après, excuse-moi de te couper, Léo, mais on comprend certaines personnes qui disent que la saison de Mbappé est ratée, dans le sens où il met 40 buts, c'est vrai, mais ces 40 buts, c'était un peu comme le triplé d'hier, inutile, un peu, parce que ça va pas vers un titre,
impacté,
ça ne concrétise pas.
Ça ne concrétise pas.
Du coup, oui, il met 40
voilà,
buts.
C'est ça.
Oui, oui, c'est un sport collectif, oui, le foot.
Oui, hein. C'est exactement ça, c'est un sport collectif. Mais mettre 20 buts et gagner la Ligue des Champions et mettre 40 buts et ne rien gagner, il y a une différence là. Et je pense que quand les gens disent c'est une saison ratée, c'est qu'il y a des matchs, différences, où on attendait Kylian Mbappé et on ne l'a pas vu.
Après, j'ai
envie
de te
dans
dire...
les matchs, dans les gros matchs importants Ligue des Champions, à part contre Manchester City, tout le reste, il s'est foiré.
C'est ça. Après, dans les grosses affiches.
Ça avait été un des moins mauvais, j'ai trouvé, en plus du Real. Hein.
Comment ?
Ça a été un des moins mauvais, en plus, dans la saison.
Oui, oui, bien sûr. Non,
non mais dans les gros matchs, Kylian Mbappé, il a répondu présent. Il marque contre le Barça plusieurs fois, il marque contre l'Atlético,
oui, contre le Barça,
il marque contre
City. Même pas des matchs importants.
Contre le Barça, là, il a mis 12 buts.
Oui.
Karim Benzema, c'est toute sa carrière, il en a mis 14.
Oui, oui, non, mais, oui, mais ça, c'est autre chose, parce qu'il en a mis énormément aussi avec le Paris Saint-Germain contre Barça. Du coup, ça aussi, c'est
important. Non, ouais, mais là, on parle du avec le Real.
Mais avec le Real, il n'en a pas mis 11. Non, il n'a pas mis 12 buts avec le Real.
Il en a mis 3 là, il a mis en finale de Coupe du Roi, il en met 2.
Non, il en met 1. Il en met 1. Il en met 1.
En Super Coupe, il en met 1. Et à la il a 6 buts,
peut-être
5 ou 6 buts.
Ouais. Ou 6 buts.
Ce qui est déjà très bien.
Oui, 3-4 matchs, c'est déjà très bien.
Non, mais il marque aussi contre l'Atlético, contre le Real Betis.
Non, mais on parle de gros matchs. Voilà,
effectivement,
dans les gros matchs où on l'attendait que ça soit en phase de poule contre Liverpool. Contre, il y avait des matchs comme ça, référence. Hein. Et même aujourd'hui, tu peux t'en mordre les doigts si tu as autant de points de retard. Parce que quand tu enchaînes des matchs contre l'Atlético Bilbao et que tu loupes ton péno juste avant, tu as loupé un péno contre Liverpool. Il y a des moments décisifs comme ça où on t'attend et on va te tomber dessus. Logique. Quand tu joues dans un club comme le Real Madrid, à ces endroits-là, il ne faut pas se manquer.
Après, pour moi, par exemple, Vinicius fait une bien moins bonne saison que Kylian Mbappé,
largement,
si on doit comparer.
Ah non, mais ça, c'est
et
sûr.
Et Rodrigo, encore
largement,
plus, d'ailleurs.
Largement.
Après,
ça, c'est plus.
Il y a des contextes différents.
Bah largement,
mais,
oui.
Mais je pense que voilà, c'est une faillite collective qui est due en grande partie, pour moi, à Florentino Pérez, qui n'a pas assuré ce qui s'est passé cet été, donc le départ de Kroos qui s'est ressenti. On a appris que Rudiger il joue avec des douleurs depuis 7 mois. Ça, ce sont des choses, surtout lui avec son expérience, qu'il aurait dû anticiper pour pouvoir, s'il voulait conquérir encore plusieurs trophées. T'as aussi Ancelotti qui... on découvre pas le style Ancelotti. C'est pas un entraîneur qui a apporté quelque chose en termes de pas de tactique.
Mais après, est-ce qu'il a les armes aussi pour répondre à tout
après, ces... après, on va... après, attention, qu'on s'entende bien là-dessus. Moi, quelqu'un qui va me dire ouais, le Real n'a pas les joueurs pour cette saison.
Ils les ont pas.
Ils ont gagné la Ligue des Champions la saison dernière avec juste Kroos en plus.
Regarde,
et sans Mbappé, tu vois.
Avec juste Kroos en plus.
Combien de fois tu vois Mene se retrouver défense centrale? Combien de fois Vasquez a dû.
Mais ça, c'est la faute de la direction.
Sans Carvajal aussi cette saison.
Sans Carvajal.
Mais on va pas me dire qu'ils ont un effectif comme les Ganes ou comme je sais pas quoi non plus.
Pas ce statut-là, mais ça n'a rien à voir avec les autres années. Et en plus, excuse-moi, là, vous avez parlé d'Mbappé. On dit, ouais, il a mis 40 buts. C'est fort. Il n'y a rien à dire sur ça. Mais quand on dit il a raté sa saison, c'est pas par rapport au but. C'est pas. Non, il n'a pas raté sa
collectif,
saison.
En fait.
Non, c'est dans le collectif. Moi, je pense dans cette équipe-là. J'ai l'impression, il est très, très fort, Mbappé. Attention. Et qu'il mette des buts, il va en mettre plein des buts. Il a dépassé le record de Cristiano.
Même du
joueur qui était premier, celui qui a mis le plus de buts
en Europe.
Après, il n'a pas un meilleur ratio, je tiens à souligner, parce qu'il y a le ratio aussi à tenir en compte. Il y a eu plus de matchs, c'est pour
mais
ça
on
aussi.
On oublie une chose, voilà. Moi je trouve qu'Mbappé, j'ai l'impression, il est gênant dans cette équipe. Il gêne les Bellingham, les Vinicius et tout ce qui en suit. C'est pour ça qu'on dit qu'Mbappé,
c'est
la son Europe.
C'est un problème.
T'as pas l'impression que les gens ils jouent pour lui.
Oui, j'apporte cette eau au moulin, tout simplement, Salé, quand je pense au but égalisateur, au troisième but du Barça, c'est Kylian Mbappé qui perd le ballon et qui se rentre dedans face à Ceballos. C'est comme il vient la chercher au milieu de terrain, il la récupère, il se retourne et il rentre dans Ceballos et c'est là qu'il perd le ballon.
Au Paris Saint-Germain,
ça. Donc, c'est voilà, là c'est ça, c'est une phase où tu te dis, voilà, tu vois, il est gêné, là, il a bien gêné Ceballos, en tout cas, sur ce coup.
Même sur plusieurs appels, t'as venu sur CM. Des fois, c'est limite, c'était collé. Non, mais
on peut penser sur le
qui vient dans la zone.
Le troisième but, Vinicius, même après, il le semble.
D'accord, mais ça, c'est Ancelotti de le dire aussi, de savoir s'imposer dans un
vestiaire. Au niveau du placement, l'entraînement, désolé de t'interrompre, c'est la chose qui se travaille, en fait. Tu vois. Comme là, tu viens de dire, en fait, cette équipe, en fait, Mbappé, quand il est arrivé dans le collectif.
Pour moi, il a déséquilibré cette équipe. Il faut dire ce qu'il en est.
En fait, on peut en parler un peu, mais je crois que c'est plus un peu, en fait, ça a été plus un fait, en fait, qu'il a pris vraiment trop de poids. En fait, à l'effet jouer d'une certaine manière. Parce qu'en fait, quand on regarde la liberté que Bellingham avait l'année dernière, il n'a plus, en fait. Avec l'arrivée de cet Mbappé, tu rigoles d'un camp, en fait. Et une fois que tu rigoles, en fait, ça impacte moins le jeu. On a vu un Bellingham vraiment qui se sont agacés. Dans l'année dernière,
il a agacé,
un joueur vraiment qui faisait rayonner toute une équipe.
Mais après,
équipe,
Bellingham,
en fait...
excuse-moi de te couper, mais la saison dernière, c'est une anomalie par rapport à son profil. Il n'est pas censé évoluer à ce poste-là. Mmh. Il évolue là parce que il y a pas vraiment d'attaquant de pointe. Enfin, t'as Rossellou, mais c'est pas la star. Normalement, le Real, ça devrait pas être... Bellingham, l'année dernière, sa saison, c'est... Son profil, lui, c'est vraiment un... Tu vois, c'est un 8.
Ouais.
C'est pas censé être un faux neuf, Bellingham. D'ailleurs, il le joue
très bien, l'année
dernière. Il le joue très bien, mais c'est pas ce qu'on attend de lui quand on le recrute à la base, tu vois. Et du coup, c'est plus une anomalie par rapport à ça. Donc là, cette saison, s'il arrive peut-être pas à se remettre dans ce qu'il a fait l'année dernière, c'est parce que justement, ça l'a entre guillemets déréglé, tu vois. Et j'ai aucun doute, c'est un super joueur, Bellingham. D'ailleurs, c'est un joueur pour moi qui a le profil parfait du relayeur. On le voit, il a un coffre physique exceptionnel. On le voit, il court partout. Mais le problème, c'est que ses courses, malheureusement, elles servent à rien aujourd'hui. Elles servent plus à rien parce que t'as Mbappé qui décroche, lui qui peut plus monter. Du coup, il est enfermé dans un
labyrinthe.
Dans une petite sphère, dans une zone du terrain où t'as pas forcément d'influence. Donc, quand t'as une équipe en face qui contrôle le jeu, malheureusement, ses courses, lui, elles servent plus à grand chose. Alors que contre le Barça, justement, sa ligne haute qui est un petit peu défaillante parfois. L'année dernière, il s'en était bien accommodé. D'ailleurs, il m'a un doublé, le doublé de la gagne au match aller. Et je pense que, en fait, l'arrivée d'Mbappé, elle a changé des choses dans le système. Mais c'est aussi au joueur et surtout à l'entraîneur d'être capable de.
Ouais, mais tu
de
peux pas.
De réconcilier son plaisir.
Vous pouvez pas dire que Mbappé, il arrive dans cette équipe et qu'Ancelotti, il doit faire tourner l'équipe limite autour d'Mbappé, parce que c'est pas possible. Les mecs, ils ont gagné des championnats l'année dernière. Non, t'as des mecs comme Vinicius, t'as des mecs comme Bellingham.
Il y a un mec qui en gagne même deux fois.
Il a pas trouvé les clés entre tous ces joueurs-là.
Mais tu peux pas trouver les clés.
Comme Messi, Neymar, Mbappé l'année dernière.
Ouais, mais tu peux pas trouver les clés. Mbappé, c'est pas quelqu'un qui joue pour les gens. C'est pas ce que c'est pas un gars qui va sacrifier pour les.
C'est autant une solution qu'un problème.
Mbappé, pour moi, exactement. C'est autant une solution qu'un problème.
Après, tu dois articuler ça avec d'autres joueurs.
Mbappé est très très fort, mais c'est pas quelqu'un qui peut jouer aux côtés des joueurs comme Vinicius, des Neymar. En fait, son ego, il est.
Je pense qu'il a jamais trouvé la clé. Ancelotti cette année avec.
Mais même Xabi, bon courage à lui si tout le monde.
Mais là, ça a commencé à gêner un peu hein, parce que là, il y a Rodrigo vraiment qui demande à partir et tout ça. Ça a commencé à
parler. Xabi Alonso, moi, je pense quelque chose, c'est que pour qu'il réussisse, il va falloir que.
Dans le micro, s'il te plaît, Léo.
Pardon. Xabi Alonso, pour qu'il réussisse, il va falloir que ce soit Mbappé et Bellingham qui adhèrent à son projet. Si les deux n'adhèrent pas à son projet, il va se foirer au Real.
Là, pour moi, il faut sacrifier.
Comment ?
Faut sacrifier.
C'est un tactifié en fait.
Faut que tu dois surtout devant, pour moi, tu dois sacrifier un Vinicius ou Mbappé.
Je pense que s'ils doivent en sacrifier un demain, ce sera Vinicius.
Mais je pense pas qu'ils le sacrifieront. Moi, je pense Rodrigo peut plus laisser sa place et même, hein, parce que Xabi Alonso, je pense qu'il veut revenir avec un 3-4-3 au Real.
Ouais.
Et s'il vient avec un 3-4-3, il aura forcément besoin de Rodrigo parce que je pense pas qu'il mettra Bellingham dans le 3.
3-4-3.
Devant. Oui,
moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il joue beaucoup à 3 à Leverkusen. Il a joué 12 ou 13 fois à 4 derrière. Parce qu'aussi, les latéraux du Bayer Leverkusen sont plus adaptés pour jouer à 3. Alors que les latéraux du Real...
C'est pour ça qu'il veut faire un recrutement en arrivant. Trent Alexander-Arnold.
Ouais. Alors faire jouer Trent Alexander-Arnold à 3, va falloir que derrière, tes défenseurs, ils assurent vraiment bien la couverture, quoi.
Oui, mais il y a Saliba dans les petits papiers qui pense arriver et tout ça.
Mais attention, parce que le Real n'est pas multimilliardaire.
Bon, pas multimilliardaire.
Ils sont pas multimilliardaires, mais ils ont beaucoup d'argent.
Non, pas multimilliardaire, en fait. Je t'explique, pas multimilliardaire, mais en fait, la politique de Florentino Pérez, c'était de quoi d'assainir vraiment les finances du club. Mais ça fait combien d'années que tu
recrutes. Trent Alexander-Arnold revient gratuitement.
Donc ça fait combien d'années que tu fais pas de recrutement. Donc à un moment donné,
Recrutement, Mbappé, tu l'as pas payé, mais tu lui as donné 150 millions derrière. Donc c'est un recrutement au final.
Après, imagine que après, sur ces dernières années.
Plus son salaire, attention.
Imagine après, sur ces dernières années déjà, tu gagnes combien de Ligue des Champions. En plus, tu es investi pas. Même le stade, tu le fais gratuitement et tout. Et il y aura, quand tu le fais, le stade, que c'est un prêt, tu prends pour construire le stade. Et c'est des trucs qui vont se rembourser sur une longue période. Donc, du coup, déjà, t'as des finances saines.
Non, mais on va pas parler aussi sûr que ça. On va pas parler de finances. Là, on parle de William Saliba, de quelques joueurs comme William Saliba, Trent Alexander Arnold. On pense que le Real peuvent se payer quand même ce type de joueur. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe, toi?
Absolument. Saliba, il peut tout à fait venir sur Madrid. Et le problème, c'est effectivement Ancelotti, qui est pourtant un super entraîneur, il a pas trouvé les clés, quoi. Il n'a pas trouvé les clés entre tous ces joueurs et tous ces grands joueurs et tout le dispositif. Ça me rappelle un petit peu le PSG avec Neymar, Messi et Mbappé qui, par moments, se marchaient dessus. Quoi.
Ouais, c'est,
et c'est un petit peu le même problème. Alors, est-ce qu'il faut en sacrifier un ? Lequel ?
Trop d'ego, ça finit pas tuer le collectif aussi.
Ouais, bah, ouais, enfin, je pense que Ancelotti, il sait gérer les égos. Hein.
Ah, il sait gérer les égos, oui.
Il en a eu d'autres, hein, des égos. Il en a entraîné des joueurs.
Qui tirait les pénalties officiellement?
Non, c'est le système
dernière,
de jeu, quoi.
Vinicius.
C'est Vinicius. Ouais, bah, ouais. Vinicius, bah, ouais. Il se fait sauter voilà, au niveau des pénalties. Est-ce que ça, c'est pas frustrant déjà?
Oui, c'est ça. Bah voilà, non, je pense qu'il a pas trouvé les clés. Et puis bon, voilà. Mais c'est vrai que Xavi Alonso, il a des.
Même Vinicius, il est méconnaissable.
Il a du bon à se faire, hein.
Vinicius, il est méconnaissable depuis
oui. Son match.
Il n'a pas
été
bon depuis le Ballon d'Or.
Il n'a pas du tout
même
été
hier,
bon.
Même hier, il était. Ouais, il était.
Moi,
il était
je sais qu'il est, il est un peu en fait.
Frustré
est,
par rapport
ouais,
au Ballon
d'Or. Il est un peu en dessous en fait. En dessous de sa moyenne, en fait, dessous de sa propre, de ses performances. Parce qu'en fait, comme tu as dit, il y a eu beaucoup vraiment de choses autour de lui. Tu sais, tout ça, même étant donné que c'est un professionnel, mais à un moment donné, il y a certaines choses qui n'arrivent pas à gérer en fait. L'émotion du Ballon d'Or et tout ça, les insultes racistes et tout. Et en fait, et le poids qu'il avait sur cette équipe l'année dernière et tout. Et cette année, avec l'arrivée de Mbappé, tout, tout est chamboulé. C'est Mbappé qui est la tête
de Gondole. Il perd son homme aussi, le maître de jeu. Hein,
ah oui, c'est ça Cruz,
hein. C'était ouais. Son maître qui le régulait et sur le terrain qui mettait en place que Carlo Ancelotti.
Il y en a un trop dans le système. Alors lequel ?
Le véritable trou, c'est Toni Kroos. Il n'y a pas le remplaçant de Toni Kroos. Parce que si tu ramènes un joueur du profil similaire à Toni Kroos, vu que Toni Kroos, il est unique, mais de la même trempe, en fait, des mêmes caractéristiques que Toni Kroos, tu t'es dit que le Real sortirait une grande saison. Défensivement, c'est faible, c'est très faible. Ça aussi, ça compte parce que le Real, on a perdu des points comme ça. Donc, je crois que rien ne va du côté de Madrid. C'est une saison à vite oublier.
Oui.
Et voilà, et essayer de penser ses blessures et pourquoi pas aller sortir une très grande saison l'année prochaine.
Merci Cheikh Kenza. On va se faire une petite pause avant de revenir avec tout simplement avec la Première Ligue. Hein. On va parler de la Première Ligue. Manchester City qui craque hein, et qui n'arrive pas à consolider leur place dans le top 5 en tout simplement. Ils perdent face à Southampton. Hein. Ils font un match nul contre Southampton. Match nul contre Southampton. Ils perdent des points importants, en tout cas, à la course pour la Ligue des Champions. Et on a pu voir Nottingham Forest aussi accrocher 2 buts partout face à Leicester, une équipe déjà condamnée. On a pu voir le président de Nottingham Forest pas content aussi. Tout simplement, un match entre Liverpool et Arsenal, 2-2. On y revient juste après la pause.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 21h37 si vous venez de nous rejoindre. Nous avons parlé de la Ligue des Champions, nous avons parlé de la Liga, nous avons parlé de la Ligue 1 aussi et nous allons parler de la Première Ligue. Hein. La Première Ligue, Manchester City qui se loupe, Liverpool qui sont tenus en échec, hein, ils menaient 2-0 et qui se font rattraper par Arsenal 2-2. Tout simplement Nottingham Forest qui perdent encore des points, Newcastle qui sont passés devant Manchester City. Avec la belle victoire face à Chelsea, hein, 2-0, qu'est-ce que vous avez pensé de ces journées ?
Bah écoute, ça va être encore indécis comme pour la Ligue 1, pour les places d'honneur. Moi, je ne croyais pas trop à Newcastle, hein, il y a 15 jours. Je pensais qu'ils finiraient derrière Manchester City puis Chelsea et que Nottingham Forest pourrait les accrocher. Là, j'ai revu un petit peu ma position. C'est vrai que ça va être compliqué maintenant pour Nottingham Forest. Après, Chelsea, Manchester City, Newcastle, ça va, il y a très peu d'écart. Je crois qu'il n'y a que 3 points d'écart entre les 3 équipes. Ça va jouer, il reste 2 journées, ça va jouer dans un mouchoir de poche. Mais enfin, comme il y aura 6 clubs anglais
en Ligue des Champions,
bon, bah, ça sera moins d'importance. Qu'on termine 4e ou 5e, ça aura beaucoup moins d'importance. Quoi.
Il y en aura même 7
En Ligue des Champions, si
en Ligue des Champions. Il y en aura 7.
Non, je crois 6 avec la finale de
l'Europa. Ah, avec la finale de l'Europa.
Oui, 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 c'est vraiment, il y a 5 personnes qui sont qualifiées d'office.
Avec la Ligue des Champions, parce que d'office, il y en a un qui est qualifié, le vainqueur sera qualifié d'office. Donc, ou Tottenham ou Manchester United.
C'est ça. Ouais. Et oui, ça fera au moins 6.
Ouais, donc voilà.
Et même Chelsea, s'il gagne la conférence.
Mais c'est pas la conférence ligue pour la Ligue des Champions.
Non, pour la Ligue Europa.
Ouais, c'est oui, ça. C'est ça.
Pour la
c'est
Ligue ça. Europa, ouais, ça offrira en tout cas, Chelsea, ça ferait 9 places quand même, la moitié du championnat qui seront en Europe.
Et Chelsea, s'ils gagnent la Coupe d'Europe, ils ont gagné toutes les Coupes d'Europe.
Oui.
Ligue des Champions, Coupe des Coupes, des fins de Coupe des Coupes, Coupe UEFA, ce qu'on a appelé Ligue Europa maintenant, et la conférence. Ouais.
D'ailleurs, ça va être intéressant de voir si Chelsea se qualifie en Ligue des Champions, comment ça va se passer, si Strasbourg s'y qualifie aussi, vu que c'est le même, ou Nice d'ailleurs, avec Manchester United, vu que ce sont les mêmes propriétaires, comment ça va, comment on fait aujourd'hui avec la multipropriété.
Je pense qu'ils s'arrangent comme Toulouse l'avait fait avec le propriétaire de Toulouse,
l'AC Milan.
Avec l'AC Milan, comme comment ils font pour s'arranger. Hein,
ouais. Par contre, j'ai une question à vous poser, que j'arrive pas à résoudre. La finale de la Coupe d'Angleterre, c'est samedi, et on joue journée championnat dimanche.
Comment ?
Ça arrive souvent, ça, que...
Non, mais pas 24 heures. Pas 24
Excuse-moi,
heures.
Excuse-moi, la finale de quoi ?
De la Cup. La elle cup, est samedi après-midi.
Crystal Palace.
Palace Manchester, là. Et la journée de championnat, elle est dimanche.
Bon, ça arrive souvent, ça.
Ah non, pas
mais Crystal Palace heures. Et City ne jouent pas dimanche,
si tu regardes, j'ai regardé.
Ah, je pense qu'il y a
pour
eu...
Pour l'instant, les matchs n'ont pas
avancé. Quand tu dis
même
ça,
chez
ça...
nos confrères d'équipe, ils annoncent, regarde, les matchs sont annoncés. Non, tous mais
quand,
les matchs.
Quand tu dis ça, c'est-à-dire que le lendemain, City doit rejouer.
Oui. Ah ouais, ça me paraît bizarre.
Ils vont le décaler dans la semaine.
Excuse-moi, tu parlais de la finale de la FA Cup et
la coupe d'Angleterre, c'est samedi après-midi entre Crystal Palace et Manchester City.
Le 17 mai. Et après ils jouent contre Bournemouth.
Il y a une journée de championnat programmée avec tous les matchs à la même heure le 18 mai.
Ça a été changé, c'est la semaine d'après, je crois. Ouais, ça a été changé parce qu'en tout cas, là, on a le 20 mai match de Manchester
mardi,
City face à
mardi,
ça me rassure parce que l'équipe n'est pas changée.
Il me semble qu'en Angleterre, c'est pas comme en France. Alors,
ils ont pas changé. Non, mais
c'est la dernière journée seulement.
Ils pouvaient très bien avancer la journée. Les deux équipes cette semaine, il n'y a pas de grande compétition cette semaine. Ils pouvaient très bien avancer les deux équipes. Et pour l'instant, je me dis, mais. Voilà, j'arrivais pas à trouver la date. Bon, on a la réponse, donc ça sera mardi prochain. Ça sera les matchs des qualifs. C'est vrai que les Anglais, en général, ils finissent la saison.
Oui, parce que en plus, tu peux.
La coupe, mais là, ils jouent avec le championnat.
Pour la dernière semaine, tu es obligé de faire un multiplex pour pas qu'il y ait d'arrangement.
Mais sur l'équipe, je me disais, mince, ces deux équipes-là, elles n'ont pas retrouvé de date. Je savais bien qu'il y avait. Donc c'est bien, tu as trouvé la date, donc elle est décalée.
Ouais, c'est ça, elle est décalée.
En plus, on a une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe ou Coupe du Monde et tout ça, en fait.
Non, du coup, non, de toute façon, il faut finir les championnats dans les temps, même quelles que soient les saisons.
Excusez-moi, on a beaucoup de sujets encore à traiter. Il est déjà 21h42. Nous allons nous presser un peu sur la Première Ligue. Quelqu'un voudrait faire un retour? On a vu Newcastle qui passe devant Manchester City. Arsenal qui reste
une mauvaise opération pour Arsenal.
Ils ont 2 points d'avance seulement.
Newcastle pourrait les dépasser.
Les Magpies, en fait.
Nottingham Forest aussi qui perdent.
Je crois.
Ouais. C'est les gros perdants, en fait.
Il y a une grosse affiche avec Newcastle, je crois, lors de la prochaine journée.
Après, Nottingham Forest, c'est un peu difficile de les compter comme des perdants parce qu'ils ne sont pas programmés pour être là.
Ouais.
Après,
oui,
une
point,
fois que tu en es là, voilà, c'est ça.
Je crois qu'un club de ce genre, en fait. C'est un club historique en Angleterre.
Il y a Arsenal, Newcastle, tout simplement.
Ah ouais, c'est ça.
C'est un club historique en Angleterre. Quand tu me dis qu'ils ne sont pas programmés, moi, je ne te rejoins pas.
Non, mais c'est avec Merino qui sera pas là. Des années 80.
Oui, mais qu'on le veuille ou pas, avec la saison que Nottingham, avec la saison qu'ils sont en train de faire, à un moment donné, ben, en fait, tu as des fans et tout ça, en fait.
Oui, mais ils ne sont pas programmés à la base.
Qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, quand tu joues en Angleterre, tu es en Angleterre.
Moi, je pense que Nottingham Forest vont se qualifier. Attendez que je ne raconte pas de bêtises. Moi, je pense que Nottingham Forest vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce qu'ils ont Chelsea notamment à jouer. Et Chelsea, je ne les vois pas se qualifier pour la Ligue des Champions.
D'accord.
Honnêtement. Okay. Je ne vois pas Chelsea se qualifier pour la Ligue des Champions. Et là, le prochain match, c'est à West Ham. West Ham, ils n'ont rien à jouer. Nottingham Forest peuvent battre West Ham. Et à domicile, s'offrir une finale contre Chelsea, les battre et aller tout droit en.
Mais là aussi,
en
tout est possible. Hein.
En plus, ça serait beau de voir un club antique et tout.
Moi,
ça,
je pense
mythique.
Que Nottingham Forest iront. Après, voilà.
Un club mythique du nord de l'Angleterre, vraiment, aurait venu sur la scène comme ça.
Merci en tout cas, voilà, c'était tout pour la première ligue. On va se faire une petite virgule rapidement avant de revenir avec Manchester United qui ont perdu en championnat mais qui gagnent en Ligue Europa et qui se sont imposés comme à l'aller, qui n'ont pas joué hein, pendant 70 minutes, ils n'ont pas joué. Et il leur a fallu juste quelques changements. Hein. L'entrée de Amad Diallo et de Mount a transformé cette équipe de Manchester United. Et Manchester United qui ont tout simplement écrasé Bilbao hein, en 20 minutes, 4 buts à 1. Ouais. Et qui ont anéanti, balayé tout espoir pour les Basques. Et ils iront défier tout simplement Tottenham qui se sont imposés aussi au Bodo Glimt. 2 buts à 0, on y revient tout de suite. Bodo Glimt qui n'ont pas réalisé l'exploit, mais ça reste quand même un exploit d'être en demi-finale de Ligue Europa, hein, c'est sûr. Et Manchester United, tout simplement, qui ont battu Athletic Bilbao 4 buts à 1. Et Tottenham qui se sont imposés aussi 2 buts à 0. Une finale 100% anglaise. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des 100% d'un pays.
Ouais. Depuis Tottenham-Liverpool, je crois, non
ouais. 2021
ouais,
ou Manchester City. Il y avait Manchester City, Chelsea, je crois.
Ouais, il y avait Manchester City, Chelsea.
En 2023,
voilà. Les champions de Manchester City, Chelsea.
Avec le but d'Avertz.
Ouais, ouais. Bien joué. Ouais, ouais. Donc, bon, après, écoute, les grands clubs, c'est ça. Comme on dit, même des clubs qui ont un passé, une histoire, même avec des saisons très, très moyennes, ils arrivent à faire une finale de Ligue Europa. Il faudra la gagner. Mais ça démontre toute la vitalité du foot anglais quand même. Même une équipe comme Chelsea, elle peut peut-être gagner une Ligue Europa Conférence.
Parce qu'il faut qu'on se rende compte que la finale de Ligue Europa, je pense qu'on n'en fait pas assez, mais elle va opposer le 15e au 16e de première ligue.
C'est ça qui est fou. C'est ça, qui
ça montre à quel point aussi.
Ça montre le football anglais.
Ça montre à quel point aussi, même. Ça montre à quel point, malgré que des équipes, en fait, des mains faibles du football anglais, arrivent vraiment à dicter vraiment la loi.
Après, attention, il ne faut pas changer de contexte. Je pense qu'il y a des équipes, elles savent qu'en championnat, c'était un peu, on va dire, KO. Elles ont misé sur la Coupe d'Europe.
Mais c'est des mains faibles.
Et puis, tu regardes le parcours de Manchester. On parle parfois de l'arbitrage en Ligue des Champions, sur les grands clubs. L'arbitrage de Manchester United sur le quart contre Lyon et sur la demi contre Bilbao, c'est aussi un arbitrage grand club.
C'est ça, les grands clubs.
Ils ont voilà, c'est quelque chose...
Un peu du favoritisme.
Oui, je ne parle pas de favoritisme, je ne suis pas dans le complotisme ou quoi, mais c'est aussi dans les grands clubs. Ouais. Au retour, le carton rouge que prend Tolisso ne doit jamais être comptabilisé comme une faute. À l'aller, il ne touche pas le joueur. Il ne touche pas le joueur.
Si, il le touche.
Non, il le touche pas. C'est le joueur qui vient mettre sa jambe dans le
terrain. Non, mais il est dans sa course. Il est dans sa course.
Oui, mais il a le droit de courir quand même.
Non, oui, mais à ce moment-là, t'as déjà un jaune, t'as déjà été averti. Parce qu'il aurait déjà dû prendre le deuxième jaune avant. Il aurait pu le prendre avant le deuxième jaune. On est bien d'accord.
Problème à lui.
Oui, mais il aurait pu prendre le deuxième jaune avant.
Ouais, il aurait
on est
pu,
bien d'accord.
Pas,
donc là, maintenant, dire que sur. Non, mais ça. Légitimement, moi, je pense qu'il y a rouge, c'est amplement mérité avec tout le match de Tolisso. C'est amplement mérité.
Ah, mais si on réfléchit comme ça, il y a des cartons rouges à tous les matchs.
Je crois que ce sujet-là, on va pas en rêver.
Et juste pour finir, l'Athletic Bilbao au match aller. Le carton rouge penalty qui a jamais lieu d'être.
Qui n'a jamais lieu
d'être? La double sanction, elle
c'est à l'appréciation de l'arbitre. Ça,
mais elle n'existe plus.
Ah si.
Elle a été en Coupe d'Europe, elle a été.
La preuve
enlevée.
Que si.
Il y a plein de trucs comme ça. Du coup, tu le en faisant ça, tu. Alors qui est le rouge, d'accord? Ou qui est le penalty? Donc plus le penalty.
Non mais attends, si tu donnes le rouge, tu peux pas ne pas donner penalty.
Oui, c'est pour ça que je dis plus le pénalty que le rouge d'ailleurs. Mais on est quand même sur des cas, comme on l'a vu avec d'autres grandes équipes.
Ouais, le Barça, toutes les grandes équipes. Hein,
l'avantage.
Ça fait partie de. Voilà.
Et voilà, on va pas revenir là-dessus.
Non,
parce que, mais c'est important
c'est
à noter
connu,
aussi dans
le
basculement
Bayern,
d'une saison.
Moment,
ça
ouais,
compte.
C'est, voilà. On respecte toujours les plus forts.
Moi, je crois qu'en fait.
Inconsciemment, c'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient.
Ils perdent
de la malhonnêteté. C'est de l'inconscient.
Non, non.
C'est dans l'inconscient.
Ils peuvent juste.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Philippe, de la prestation, tout simplement, de Manchester United?
Je te dis, c'est une équipe qui se cherche depuis quelques années, puis elle se revigore à travers cette Ligue Europa.
Qui ont gagné en 2023 aussi,
Peut-être qu'il y a eu le déclic après ce match gagné contre Lyon au final. Ouais. Mais bon, c'est la force, je l'ai dit, de ces clubs qui ont une notoriété, qui ont une référence, même quand ils sont dans des périodes un petit peu difficiles, ils arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu dans une compétition. Chelsea, c'est un peu le même genre. Donc voilà, et ça démontre effectivement la vitalité du football anglais quand même, par rapport au tour de championnat.
Merci Philippe. Chakenza, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Manchester United et de Tottenham aussi, hein, Tottenham qui sont imposés face à Bordeaux-Glimt. Oui. 2-0-3-1, Tottenham aussi qui ont encore perdu ce week-end, hein, 2-0.
Mais en championnat anglais,
mais en Ligue Europa, ils sont présents. Ça, c'est fou quand même. Faudrait se rappeler, faudrait sortir les stats, ils seront assez folles aussi, qu'un 15e ou 16e, 15e, 14e de championnat arrive à se hisser en finale ou même va gagner une Coupe d'Europe en étant aussi loin dans son championnat. Faudrait remonter les stats, je pense que c'est du jamais vu.
Vraiment, parce qu'en fait, quand tu regardes vraiment ces équipes-là, en fait, en Première Ligue, vraiment, ils sont malmenés par des équipes en fait, moyennes et tout ça, en fait, mais en Ligue Europa, ça dicte un peu la loi et tout ça. Ça montre à quel point aussi que le football anglais, en fait, est un football vraiment de top, top niveau. Et oui, bon, peut-être comme il a dit tout à l'heure, Salé, je crois que oui, il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit. Des équipes vraiment qui dès vraiment le mois de février, savaient qu'elles étaient mal barrées en championnat. On peut se miser vraiment sur la Coupe d'Europe. Je crois que ça sera pas, c'est pas la politique des clubs anglais tel que je sache, parce que Tottenham vraiment a un statut à respecter vu les dernières saisons qu'ils ont fait. Manchester, en fait, c'est un peu l'ogre qui se fait rattraper de leurs 20 titres par Liverpool, qui est un concurrent en fait historique et tout ça. Donc, je vois que vraiment c'est des équipes qui sont à la peine tout simplement. Comme on a dit, qu'ils arrivent à jouer vraiment sur le sursaut d'orgueil, voilà, en Ligue Europa, en essayant vraiment de sauver la saison. Mais ça serait vraiment de bon augure de voir ce genre d'équipe-là revenir en Ligue des Champions. Pourquoi pas pour leur redonner un peu de confiance et retrouver peut-être le grand Manchester la saison prochaine. Mais ça serait difficile parce que les bases ne sont pas là. Et après, vraiment, en fait, comme on dit, dans le jeu, ce n'est pas intéressant, vu vraiment la prestation face à Bilbao. T'as dit qu'ils n'ont pas joué pendant combien de temps ?
70
dit...
minutes, c'était compliqué.
Voilà, en fait, ils étaient dans le dur. Ils étaient dans le dur, que ce soit en fait tactiquement.
Ils ont géré aussi, hein, parce qu'ils avaient aussi 3 buts d'avance, faut le dire.
Oui, qu'on le veut pas. Mais en fait, quand tu es Manchester, que tu ne veux pas, en fait, il y a un statut à respecter. En fait, c'est le Red Devils, en fait. Manchester, c'est un club qui a toujours fait. C'est le prestige, comme on dit, en fait. C'est la gloire, en fait. C'est le passé glorieux du football anglais.
Ça fait plus d'une année qu'il y a
eu. Oui, qu'on le veuille ou pas, le passé, on ne va pas l'éteindre, en fait, en 2-3 claques. Ce n'est pas des choses qui s'éteignent, en fait. C'est des choses qui sont indélébiles, qui restent, en fait, quel que soit le temps. Même s'ils font des années de disette, ils font même 10 ans, 20 ans, mais c'est un club mythique. Et c'est un club qui est vraiment populaire et tout ça, et qui nous a donné des très grands joueurs. Donc, qui le veuille ou pas, il y a un statut à respecter. Et ça n'a pas été le cas. Mais au final, ils se sont sortis comme face à Lyon. Donc, je crois qu'ils sont bien partis pour la gagner. Tottenham, c'est un peu le même contexte. Et ça promet. Mais ce n'est pas des équipes en vraiment top, top séduisantes. Moi, à mon niveau, ce n'est pas séduisant.
Merci, Chekinza. Salson ?
Ouais, pour ce qui est de la finale entre ces deux équipes, pour moi, déjà, celui qui perd cette finale-là, il a beaucoup à perdre. Parce que là, tu fais tout ça. T'es dans le dernier tableau de ton championnat.
Tottenham qui n'ont jamais gagné de trophée. Hein. Ouais. Et ça pourrait être la première Harry Kane. Harry Kane qui gagne un trophée de l'autre côté, son premier. Ouais, et de l'autre côté, Tottenham qui le gagne après.
Franchement, je vois plus une étape. Pour moi, une étape.
En 1970, ils en ont gagné des trophées. Mais ça date
trop. Ouais, mais là, pour moi, c'est une étape qui sont favoris dans cette rencontre. Mais là, comme je viens de dire, celui qui perd ce match, mais.
Celui qui gagne. Parce que pour moi, Manchester United, ça peut être un cadeau empoisonné, la Ligue des Champions.
T'attires déjà de grands joueurs.
Dans le palmarès. Mais déjà, juste avec quel argent ? Avec quel argent ?
Manchester
United, ils n'ont pas d'argent. Ils font des plans. Sir Alex Ferguson, ils le virent de son statut d'ambassadeur.
Pour faire des économies.
Ouais, mais t'imagines dans quel état ton club est si tu dois virer la plus grande légende de l'histoire.
Oui, mais ça, c'est la gestion après des nouveaux propriétaires, comment ils sont arrivés. Mais tu peux pas te dire Manchester United est l'un des clubs qui vaut le plus cher
dans l'histoire.
Il faut pas oublier une chose, là-bas, il n'y a plus de cantine, je crois.
Non, mais il n'y a plus rien.
Il n'y a plus de cantine.
Ils ont droit à des sandwichs triangles le midi.
Ils ont tout, c'est vraiment un peu chaud.
Ça en dit long quand même. Ça en dit long sur les finances du club.
Ouais, ça en dit long sur la position en fait. Parce qu'on a comme l'impression que Ferguson, il a emporté tout le passé glorieux avec lui en fait.
Et puis tu regardes les recrues des dernières saisons, on parle de Johnny Evans, on parle de Maguire, tu dépenses 83 millions sur lui. Avec le rendement qu'on lui connaît, il y a plein de trucs comme ça qui font que.
Ça fait deux ans que ça va mieux. Déjà.
Ouais, ça va mieux, mais bon, ça va tellement mieux que United.
En fait,
voilà,
ça va mieux, mais comme je dis, en fait, c'est-à-dire, en fait, l'après Ferguson n'a pas été préparé en fait. C'est quelque chose qu'ils ont fait comme ça. Ils ont essayé de prendre David Moyes et tout ça pour essayer de voilà, mais c'est pas quelque chose qui a été préparé comme à Liverpool quand on perd Jürgen Klopp, on part chercher un profil un peu similaire et avec des retouches en fait.
Ils ont eu des années 10 quand même Liverpool.
Oui, mais
en fait, c'est le plus grand club d'Angleterre.
Maintenant, mais ils ont eu quelques années quand même. Ça n'a pas été brillant.
Oui, ils ont mis 20 ans à gagner le titre en fait, plus de 20 ans.
30
ans
même. Ils ont surpassé United pour moi.
30 ans. Non, ils sont à égalité en termes de titre.
Non, mais en termes de
Ligue des Champions, non.
En Ligue des Champions, oui, ils ont
pour moi, c'est un plus grand club aujourd'hui que United, Liverpool.
Merci à vous. On va enchaîner avec le trophée UNFP. Hein. Désiré Doué, élu meilleur espoir de la Ligue 1. Lucas Chevalier, meilleur gardien. Luis Enrique, meilleur entraîneur. Mbappé, meilleur joueur évoluant à l'étranger. Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur. Greenwood, qui ne fait pas partie des 11 de Ligue 1. Est-ce que pour vous, c'est justifié, Philippe, est-ce que c'est justifié que Greenwood, avec 19 buts, hein, on rappelle, hein, Greenwood,
il a eu un creux quand même.
Excusez-moi. Mais
ses prestations ne sont pas exceptionnelles.
Excusez-moi, attendez, Barcola aussi, vous pouvez me dire que demain, Barcola, il fait une meilleure saison que Greenwood.
Ah, il a été un peu plus constant, je pense.
Désiré Doué a été plus constant que Greenwood.
Non, je crois pas.
Non, moi, je pense que vous oubliez. En début de saison.
Non,
en début de saison, il faut dire la vérité.
C'est classement, c'est plus...
Ouais, mais Doué, il est jugé sur sa saison européenne en même temps que le.
On ne parle pas de l'Europe.
Mais Greenwood absent dans les grands matchs en Ligue 1 aussi.
Il y a cette image-là quand même. Il y a cette image-là.
Là, on ne parle pas de l'Europe.
Moi, c'est pour ça que ça ne me choque pas que Greenwood ne soit pas dedans.
Il a eu des creux.
Là, on ne parle pas de l'Europe. Moi, je crois que ce classement, c'est fait vraiment pour mettre vraiment en avant cette équipe du PSG. On a une équipe du PSG qui a
C'est normal, c'est une équipe qui a gagné avec 20 points d'avance.
Ça reflète la saison. Même s'il a été stratosphérique, mais je crois que vraiment.
Pour moi, il n'y a pas de.
Greenwood a sa place dans le 11 titulaire.
Pour moi, il n'y a pas de.
C'est pas vraiment
problème,
quels sont vraiment, en fait.
Ça se discute, mais c'est pas scandaleux.
C'est pas un scandale.
C'est pas
un
scandale. Ça se discute, mais c'est pas scandaleux.
En fait, pour moi, je crois que vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Parce que c'est un peu entaché, un peu vraiment, l'UNFP déjà, en termes de transparence et tout, vu la prestation de Greenwood, il mérite d'être dans le 11.
Moi, franchement, je veux dire la vérité, il mérite d'être dedans. Et je pense qu'il y a un Barcola Doué qui est un trop.
Après, il faut pas oublier que ce sont les joueurs qui votent aussi. Hein.
Oui, mais tu peux pas mettre les deux et laisser Greenwood. Greenwood, pour moi, à sa place dans cet effectif-là.
Excusez-moi, mais Greenwood, pour moi, je suis pas un fervent défenseur de l'OM, mais encore moins de Greenwood. Mais quand même, il a porté. Faut dire la vérité, il a mis des buts importants. On peut pas dire que dans les gros matchs, il a pas truqué. Il a mis des buts importants avec Greenwood. S'ils sont deuxième aujourd'hui, c'est grâce à lui. 19 buts quand même. Après, ça s'efface pas.
Après, ça reste pas scandaleux encore.
19 buts, il peut même terminer encore meilleur buteur parce qu'il est à 2 buts de.
T'as Barcola, des bêtises qui fait 6 mois.
Et Barcola après Dizet dans les meilleurs passeurs.
Après Dizet, quand Greenwood aussi,
Greenwood, on te l'annonçait il y a quelques saisons comme un futur Ballon d'Or. Forcément, t'as d'autres attentes qu'un mec.
Fait un moment qu'il était arrêté à fait après, etc.
Oui, mais on te l'a annoncé comme ça.
Non, pas forcément. Mais quand tu le vends de arrêté à fait à Marseille, tu dis pas que c'est un futur Ballon d'Or. Excusez-moi.
Non, mais moi, quand je te parle dans ses premières années à Manchester United,
vue de ce qu'il faisait, tu disais c'était un grand espoir. Et c'était à juste titre.
Après, vu ses performances, au-delà des buts, parce que si on parle que des buts, alors je sais pas, ça veut dire que. T'as celui qui a marqué le plus de buts, c'est le meilleur joueur du monde.
Mais il s'en rapproche quand même.
Mais pour moi, c'est pas. D'ailleurs, dans les trophées UNFP, il n'y a pas eu de scandale, je trouve. C'est assez rare pour le souligner.
Gardien Lucas Chevalier.
Moi, il n'y a que Doué en meilleur espoir. Je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est pas non plus un scandale.
Mais qui aurait mis Cherki ?
Non, Cherki n'était même pas dans les. Non, j'aurais mis.
Je suis d'avis, c'est.
D'accord. Chevalier ou Donnarumma, tu mets.
Non, moi, en meilleur espoir, j'aurais mis André Santos. Parce que Doué, il fait que 6 mois au final. La Ligue 1. Alors qu'André Santos, il fait toute la saison. Ouais. Il est capitaine, il a 20 ans. Ouais,
mais il est tellement décisif sur les matchs.
Il a été tellement décisif là, sur les derniers mois.
André Santos, on parle d'un mec qui va porter Strasbourg.
Quelqu'un pour Strasbourg, gros volume de jeu.
Son but contre Lyon, exceptionnel.
Pour moi, c'est pas un scandale.
Même Cherki qui est pas nominé, c'est pas normal pour moi.
Et Mbappé, meilleur joueur. Excusez-moi. Et Mbappé, Mbappé, meilleur joueur évoluant à l'étranger. Ouais, vous êtes d'accord,
logique, dire. Ouais, c'est combien dire quand même. Il a été très bon au Real. Ça a été un des moins mauvais. Donc,
ça a été l'un des moins mauvais, mais très bon au final.
Non, pas très bon, je veux dire, excuse-moi.
Non, vu les stats, en fait.
Il a été
vu les stats.
Au Real. Voilà. Ça a été un des moins mauvais.
Excusez-moi, mais. Moi, je suis pas un fervent défenseur non plus, mais j'aurais mis Jules Koundé tous les jours. Excusez-moi, mais cette année, en tout cas, j'aurais donné.
Ouais,
Jules
mais
Koundé.
Les stats, elles passent malheureusement.
Oui,
avant
non, mais excusez-moi, oui. Mais
excusez-moi, parce que t'as Saliba cette année, aussi, je pense.
Non, Saliba, même c'est pas vrai. Mieux. Avec Arsenal, même pas. Parce que Koundé. Koundé, il gagne des trucs et il est important. Il est très important. Il met des buts importants. Excusez-moi, mais cette année. Pour moi, c'était meilleur joueur à l'étranger. Pour moi, c'était Koundé.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un lobby aussi parce qu'il y a des enjeux d'image. Il y a des enjeux... Voilà.
Ouais, mais Mbappé, c'est pas scandaleux non plus. Mais non, tu peux le donner. Non, mais t'as raison. Koundé, c'est vrai qu'avec la saison qu'il fait, tous les matchs qu'il a enchaîné.
Il
a enchaîné plus de 70 matchs.
Ouais,
c'est le jeu le plus utilisé à Barcelone.
Et il fait ses performances, elles sont pas.
Voilà, c'est ça, parce que tu peux enchaîner des matchs sans être forcément très bon, tu vois, dans une équipe.
Non, mais moi, je parle pas.
Mais là, c'est qu'il est très bon.
Non, mais je crois que c'est la pièce même angulaire de Hansi Flick.
En tout cas, on va pas se lancer dessus parce qu'on arrive à la fin. Mais oui, en tout cas, c'est ça. On va se faire un petit quiz. On va enchaîner un petit quiz. Les téléphones sur la table, s'il vous plaît, messieurs. Jay, quand tu veux. C'est parti. Première question. Qui est lauréat j'espère que vous avez bien révisé. Hein. Quel est le lauréat du meilleur espoir UNFP 2010 ?
Ouf. 2010.
Gourcuff, non ?
Non. Oui.
Eden Hazard,
ah oui. Et c'est bon pour Salson, ça fait un point pour Salson.
C'est vieux ça.
Deuxième question, quel est le meilleur joueur UNFP qui remporte, en tout cas le lauréat UNFP, du meilleur joueur sur l'année 2017 ?
2017 meilleur joueur.
Kylian Mbappé ?
Non.
Ousmane Dembélé ?
Non.
Non.
C'est l'année de Monaco, donc.
Meilleur joueur UNFP, hein ?
Oui. Qui gagne l'UNFP ? Non, pas Falcao. Dans le micro, s'il te plaît.
2017.
Philippe, 2017.
Bernardo Silva ?
Non plus. Non. Léo, tu attends maintenant.
Non, 2017.
Ah, meilleur joueur.
Oui, meilleur joueur.
Je pense que c'était
Benzema. Non, il était plus là. Donc, qui est-ce ?
Cavani.
Cavani, Edinson Cavani, bien joué pour Cherki. Edinson Cavani,
c'est que des mecs du PSG à part il y a Lacazette en 2015 et c'est tout. Ouais. Que du PSG.
On enchaîne. Troisième question. Quel est le lauréat du meilleur gardien en 2013 ? Voilà, lauréat du meilleur gardien UNFP 2013.
Loris, non ?
Non.
Non.
Comment s'appelle le Nigérian ?
Enyama.
Non.
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 Non, c'était Enyama, mais.
2013.
Steve Mandanda ?
Non plus. Non. Oui.
Stéphane Ruffier ?
Non plus. Meilleur gardien UNFP ?
Sous.
Ah 2013.
2013.
Jérémy Jeannot ?
Non.
Non.
Messieurs, tic-tac.
Donne un petit indice.
C'était un gardien du Paris Saint-Germain.
Oh, ouais.
Sirigu pour Léo. Oui, Sirigu. C'était bien Salvatore Sirigu.
Pourtant, il était controversé.
Ouais. Lui aussi.
Ouais. On va enchaîner. Quel est le lauréat du meilleur coach UNFP 2014 ?
UNFP 2014.
2014.
Laurent Blanc ?
Paris. Non.
Ancelotti ?
Non plus.
Non. Rudy Garcia ?
Non plus.
2014. C'est quand même pas... Emery, quand même, non ?
Non.
Non. C'était plus tard, Emery.
Oui, c'était plus tard. Il y a eu plus tard.
C'est en fait...
Perrin, non ?
Non.
Non. 2014, c'est...
Genesio ?
Non.
Non.
Ah,
L'Argentin de Marseille ?
Bielsa, non. Bielsa. C'est plus tard, non ?
Non, Bielsa, c'est plus tard.
Je vous donne un petit indice. Il jouait l'entraîneur coaché du côté de Montpellier.
Oh, Michel Desacariens ?
Non.
Non.
Jamais de la vue, il l'a eu.
De Montpellier, ouais, parce qu'en 2012, il était champion.
Non plus.
Non, c'est pas
Gasset. En 2012, Montpellier.
C'est pas Gasset, Montpellier.
2014.
Ouais, oui. Ils ont été champions de France.
Philippe Montagnier.
À ce moment-là, il est coach de Montpellier à ce moment-là.
René Girard.
René Girard, merci Philippe. Ouais, ouais. Merci Philippe, René Girard. Et on enchaîne là avec quel est le lauréat du meilleur joueur de Ligue 2 UNFP.
Cette année ?
Non, en 2010, pardon.
Oh là là là.
UNFP Ligue 2 2010.
UNFP Ligue 2. Oh.
Qui est-ce qui est monté cette année-là ?
Et attends, c'était un des nazis à ce moment-là. Tu veux qui ? Guillaume, non.
2010, qui est-ce qui est monté ?
Qui est monté ?
Tu peux nous dire qui est monté, non ? 2010, je ne m'en rappelle plus.
Mais... j'ai pas ouais. là sous les ça yeux aider, qui ça. Est monté, mais je peux vous donner un indice si vous n'avez pas.
Est-ce qu'il a confirmé ?
Comment ?
Est-ce qu'il a confirmé après ?
Oui, il a confirmé. Et c'était bien. Oui, c'était bien en 2010 et il jouait au FC Tour.
Ah, Giroud.
Giroud pour Philippe. Ouais. Dernière petite question, on va enchaîner. Hein. Dernière petite question. Quel club remporte la Ligue des Champions en 1997?
1997.
Dortmund.
C'est bon. Le point est partagé. Hein.
Le point est partagé, mais Philippe est le grand gagnant de ce soir, ouais, en tout cas. Avez... Merci à Jason pour la technique. Merci, merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices, hein, pour votre fidélité. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à Shekenza, merci à Salson, merci à Philippe, merci à Léo.
Bonne soirée.
Et bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine.